Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 13e de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 avril 2004, jour de la Saint-Parfait. Et à la Saint-Parfait...
À la Saint-Parfait, on fait des mauvaises liaisons parce que c'est pas le 18 avril.
Qu'est-ce que c'est que ce S?
Je fais ce que je veux, c'est moi qui commence. Je crée un style. Donc le dicton de la Saint-Parfait, c'est « À la Saint-Parfait, tu viens et tu repars, fait. » Je l'ai volé à quelqu'un. Dicton qui n'illustre absolument pas le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui sera la religion, sujet glissant s'il en est délicat. Enfin, bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Alors avec nous, pour commencer, il y aura Cray qui commence toujours et qui aujourd'hui va commencer à s'intéresser donc à la religion tout bêtement.
Exactement, dans la tradition toute nouvelle de commencer, aujourd'hui je commence à m'intéresser à la religion, donc j'y vais tiennement, hein, avec prudence. Je ne commence pas la religion, je commence juste à m'y intéresser.
C'est un bon début. Ensuite, Valérie.
Et il arrête quand créer sa religion?
Bah, on verra plus tard, ça sera le sujet d'une autre émission. Merci Darty. Avec nous, bon, il y a bien longtemps qu'on ne l'avait pas vue avec nous, elle nous a terriblement manqué, et c'est avec un immense plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui avec nous, Valérie. Bravo.
Bonjour.
Un tonnerre d'applaudissements. Alors Valérie, tu vas nous parler.
Je commençais à me demander si je vous avais vraiment manqué.
Mais tout à fait. Mais alors pourquoi on t'a pas vu pendant tout ce temps-là d'ailleurs?
Eh ben, moi j'ai une nouvelle petite déesse qui est née, donc j'étais en congé maternité d'émission.
T'as acheté
radio.
Une voiture?
Je croyais que tu travaillais chez Peugeot.
En congé maternité, on ne paye pas nous pour venir ici.
Mais à part ça, je vais vous parler d'autres types de croyances, je vais vous parler de sorcellerie. Et je vous donnerai quelques recettes.
D'accord, ben ça sera sûrement passionnant, moi j'aime bien la cuisine. Avec nous aussi, ça fait un mois qu'elle ne sort plus, le samedi soir, pour être en forme le dimanche matin, pour regarder les émissions religieuses et pour nous en parler, Béatrice.
On va dire ça comme
bravo.
Ça.
Oui, quel, bravo, courage, hein.
Quel courage.
Félicitations.
Quelle abnégation.
Ouais.
Alors, la Bible et Playboy sont ses livres de chevet. Numa, aujourd'hui, qui va nous parler...
De Playboy.
Ah bien.
Non, de la trilogie Nicopole.
Ah bah, un tonnerre d'applaudissements aussi pour lui. Hein.
Ouais, parce que Flo, elle a tout perdu ma chronique.
Ouais, parce que t'avais prévu autre chose et elle est partie à la poubelle.
Oui.
Bravo.
C'est sûr, préparer une chronique sur Playboy.
Alors justement, elle n'a qu'une religion, c'est le cinéma, on pouvait pas faire autrement comme entame. Flo, qui va nous parler aussi...
Du film de Bilal, le dernier.
Ouais, mais vous êtes ensemble, non? Enfin, pas avec Bilal, Nima et Flo.
Non, c'est parce que comme je lui ai balancé sa chronique, il a fait que je trouve un truc pour rattraper le coup.
Ah, c'est toi qui as écrit sa chronique?
Non, je voulais suggérer un truc qu'il connaissait.
D'accord, et ben un tonnerre d'applaudissements aussi, hein. Alors, il connaît par cœur les 10 000 commandements du logiciel libre. Avec nous aujourd'hui, Darty, qui va nous parler d'un truc imprononçable. Alors, je te laisse le prononcer.
C'est Saint Ignatius et de l'église d'Emax, en fait. Donc, Saint Ignatius, c'est...
Bah, tu nous expliqueras ça.
Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein, mais...
Tout à l'heure.
Et d'ailleurs, en fait, c'est pas... tu as dit combien de commandements
10 000.
10 000, non, il y en a 4, en fait.
Il y en a 4,
c'est
pas
grave,
avec 10.
On verra tout à l'heure.
D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est une émission en public. Il y a deux personnes dans le public, donc on améliore par rapport à la dernière fois. Il y a donc Ariane, une charmante lyonnaise, et Adèle, une charmante petite fille. Je ne sais pas si elle va bien tout comprendre.
Mais c'est dommage qu'elle n'ait pas pu assister à notre émission sur les jeunes, car elle aurait pu nous en parler.
Elle aurait pu témoigner.
C'est 3 mois, en fait, qu'elle fête aujourd'hui. Voilà.
Bah, bon, félicitations. Bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour le public et plus particulièrement pour Adèle. Donc on va commencer tout de suite, hein, parce qu'on est nombreux, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on va commencer directement par Cray, et allons-y, à toi, commence.
Voilà, ça y est, je commence à m'intéresser à la religion. Alors le sujet est vaste évidemment. La religion, les religions, il y en a tellement. Par où commencer? Ben, j'étais bien embêté parce que commencer à m'intéresser à la religion, je savais vraiment pas par où commencer. D'autant plus que je suis pas du tout expert en religion, pour la bonne raison que je suis athée. Puis j'ai jamais été élevé dans aucune religion, quelle qu'elle soit. Donc j'ai décidé quand même de m'intéresser à une religion plus en particulier parce que c'est celle que je connais. C'est la religion catholique. Mes parents étaient d'origine catholique. Et ben voilà, quoi, je vais surtout parler de cette religion en essayant de l'approcher d'un peu plus près que ce que j'ai pu faire jusque-là. Alors tout d'abord, la religion catholique, évidemment, c'est la religion qu'on connaît peut-être aussi tous le mieux parce que elle est à l'origine en grande partie de notre culture, tous. Et c'est assez difficile en fait d'être assez objectif dans l'approche de cette religion puisque on a tous un peu ça, un peu d'elle en nous, quoi. Bon, enfin bon, moi je suis athée, je vais faire comme si je la connaissais pas du tout, et puis si je l'avais jamais. Et de toute façon, je ne l'ai jamais pratiquée. Donc hier, coup de bol, je me promenais dans la rue, et puis je suis passé devant une église, je la connaissais pas du tout, et je suis rentré dedans, comme ça, et je me suis d'ailleurs dit que c'est marrant, à chaque fois que je passe devant une église, je suis assez attiré par l'église, et je me demandais si les églises n'étaient pas construites un peu pour ça. Pour donner envie de rentrer à l'intérieur.
Oui, c'est un peu comme les blondes.
Genre les bonnes sœurs peut-être.
Ouais, mais je veux pas dire, mais dans ce cas-là, il y a des églises qu'on pourrait comparer à des blondes beaucoup moins appétissantes. Parce que les nouvelles églises, ça casse pas les briques.
Oui, mais moi je parlais plutôt des vieilles églises en pierre.
Ah, des voilà. Vraies quoi.
Voilà, les vraies. Enfin, je sais pas s'il y en a des vraies, des fausses.
Puis, en plus, on peut rentrer dans toutes les églises alors que dans les.
Donc voilà, donc je suis rentré dans cette église qui avait pas un cachet en fait. Si, la façade est assez jolie, je me souviens même plus du nom de la paroisse, c'était dans Paris centre.
C'est un quelque chose peut-être.
Oui, ça devait être quelque chose comme ça. Maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelque chose. Et donc juste à ce moment-là, il y avait une messe. Donc on a appris juste avant l'émission que cette messe devait être les vêpres. Voilà, donc ça devait être les vêpres. Donc j'ai assisté au début, je sais pas si c'est exactement le début. Quand je suis arrivé, c'était déjà commencé. Bref, donc j'ai appris que le prêtre s'exprimait, que Jésus était donc parmi nous, et qu'il était aussi assis à la droite de Dieu. Donc j'en ai déduit que Dieu devait pas être très loin. Mais je l'ai pas vu.
J'ai vu, je crois que c'est un petit peu toi, Emmanuel.
Oui, effectivement, enfin bon, bref. Donc j'ai cherché Jésus et Dieu, puis je les ai pas vus, mais j'ai vite compris que le verre qu'il présentait, qu'il tenait dans sa main, contenait du vin, et que ce vin, c'était en fait le sang du Christ. Ben,
c'est pas vrai.
Si. Alors là, j'étais un peu plus intéressé quand même. Je me suis dit, c'est quand même con, du bon vin, il transforme en sang.
Mais bon. Après, ça fait du bon boudin.
Oui.
Et à ce propos-là, j'ai une anecdote. J'ai une copine qui m'a raconté son arrivée en France parce qu'elle est algérienne. Et leurs parents les avaient emmenés pour la messe de Noël. Et au moment où le prêtre a commencé à distribuer les hosties en disant le corps du Christ, son petit frère s'est mis à crier « Ah, maman, ils sont cannibales !»
Bah, c'est un peu ça, en fait, pourquoi je faisais cette remarque-là. C'est que bah moi, comme ça, en tant que profane, me dire que ce vin, là, on le transforme en sang du Christ, ou que c'est de toute façon le sang du Christ, ou que l'hostie qui va être ensuite présentée, c'est le corps du Christ, ben, moi, ça me laisse complètement de marbre, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Je pense que...
Ça t'intéresse pas parce que tu n'as pas goûté le vin.
Oui, c'est possible. Enfin bon, bref, toute cette histoire de vin, ça m'a rappelé, parce que j'ai quand même lu la Bible et les évangiles, et ça m'a rappelé une anecdote.
T'as lu toute la Bible, toi?
Oui.
Toutes.
Félicitations.
Oui, d'ailleurs, je m'en souviens pas de la totalité.
En latin?
Mais non, en français, hein, la Bible traduite. Mais je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Les évangiles, je les ai même lus deux fois. Et je me souviens notamment d'une anecdote.
Tous les évangiles aussi?
Oui. Il y en a que quatre, les évangiles.
Ouais, mais c'est long à lire quand même.
Non, les évangiles sont assez courts. Sont relativement courts.
Ouais, moi je garde pas un bon souvenir, donc si tu veux, la pénibilité me donne une impression de longueur.
Bon, ouais. Et ben je trouve pas justement que les évangiles soient spécialement pénibles. Donc cette histoire de vin, ça me faisait penser à une anecdote dans les évangiles, qui sont les noces de Cana. Et dans les noces de Cana, justement, donc à la fin du repas, tout le monde est complètement, tout le monde a bien mangé, a bien bu et tout ça, et il n'y a plus de vin.
il n'y a plus de vin. Alors là, vous ne pensez pas si c'est la catastrophe. Heureusement,
si ça, on imagine bien.
Jésus est là. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Qu'est-ce que fait Jésus ? Il transforme l'eau en vin.
À un moment, j'ai eu peur. J'ai cru que tu allais dire les Chinois arrivent avec du vin de riz.
Non, 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 non.
C'est, ça s'appelle une private joke. C'est parce qu'ils sont venus avec Flo est venu avec une bouteille de vin de riz et c'est pas bon. Voilà, donc on reprend maintenant. Merci, Flo.
Donc voilà. Donc il est, moi je dis c'est un homme formidable. Il change l'eau en vin, tout paf. Enfin bon, c'est.
Et il voilà. Multiplie les poissons aussi.
Mais je croyais que c'était en référence à la scène, moi, qui buvait le vin et
ah oui,
qui
c'est
mangeait
en référence
le pain.
À la scène.
Oui, non mais d'accord, mais moi, effectivement, en il fait, n'y a pas un lien direct entre les deux. C'est juste moi, ça m'a fait penser aux noces de Cana.
Okay.
Donc les noces de Cana. Donc il change l'eau en vin. Et puis, alors c'est ça qui est génial dans les évangiles, c'est que finalement, il y a une phrase à ce moment-là qui m'a marqué, c'est « Et c'est à ce moment-là que les apôtres crurent en lui ». C'est-à-dire qu'ils ont commencé à croire en lui qu'à partir du moment où il a changé l'eau en vin. Et effectivement, moi je suis prêt à croire à un bonhomme pareil.
Ça me paraît incroyable ce que tu dis, parce qu'à mon souvenir, les noces de Cana, Jésus était encore enfant et donc il était allé avec sa maman.
Non, non.
Non, non, il est adulte et il dit à sa mère, tu me désignes. Enfin, il lui dit un truc comme ça, tu me désignes, tu me condamnes en me demandant de changer l'eau en vin. Mais il n'est pas enfant du tout à ce moment-là. Il est Christ et enfin, il est Jésus et il est bien conscient de savoir qui il est.
Bon, c'est vraiment important parce qu'après, quand cette émission sera diffusée sur les forums catholiques, sur Internet, tout ça, il faut absolument qu'on soit précis sur les noces de Cana.
Oui, il ne faut pas dire de bêtises.
Je continue. Donc moi, je me suis dit, pour que je croie, il faut que je fasse comme les apôtres, il faut que je persuade Jésus de me changer l'eau en vin. Malheureusement, j'ai souvent essayé, et avec mon petit verre devant moi, « Seigneur Jésus, soyez sympa, ma petite flotte misérable, là, si vous pouvez me la changer en un Château Margaux 96, ça m'arrangerait bien. » Eh ben jamais. Peut-être une fois, je me souviens, j'étais au fond d'une cave, il était 5h du matin, j'avais goûté toutes les bouteilles une par une pour être sûr qu'elles n'étaient pas périmées. Il m'avait peut-être changé l'eau en vin ce jour-là, mais je ne suis pas sûr, mes souvenirs sont un peu embrumés.
Je m'en rappelle, j'étais là et effectivement, il y a eu un miracle. tu as bu de l'eau et tu as vomi du vin.
Ah, c'était donc ça. Bon. Alors sinon, comme j'étais en train de faire des courses, en fait, je suis pas resté dans cette église que j'avais découvert.
Est-ce
comme ça.
Est-ce qu'ils vendaient rien?
Je sais pas.
Si, ils vendent des trucs. Hein.
Ouais. Des bouquins.
Enfin bon, bref, j'ai continué à faire mes courses, bien décidé à aller ce matin à la messe. Et puis ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, il pleuvait. Donc je me suis dit, si Dieu avait envie que j'aille à la messe ce matin, il n'aurait pas fait pleuvoir. Donc du coup, j'y suis pas allé. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus sur les messes.
S'il avait fait beau, tu serais allé à la messe.
Ah oui, oui,
un
j'avais
grand soleil,
décidé.
Ah oui, ça aurait été gâché.
J'avais vraiment décidé. Enfin, non. J'avais décidé d'y aller, puis je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu le temps, je me suis dit non, tiens, je vais rester.
Bah, c'est vrai qu'il fait frais dans les hôpitaux. Hein. Pendant la canicule, il faut. Dans les hôpitaux, dans les églises. Pendant la canicule, il faut aller à l'église plutôt qu'aller à l'hôpital.
Tu sais, ton verre, je te comprends de confondre église et hôpital parce
que. Mais il y a que des vieux. C'est ce que je devais dire un peu plus loin. Enfin bon, c'est pas grave, c'est dit.
Oups.
Donc.
Parmi nos auditeurs, on a beaucoup de croyants, peut-être.
Et puis, il faut dire.
En train de nous faire perdre tous nos auditeurs.
Ah bah écoute, moi je suis là aussi pour dire ce que je pense, ce que je suis en train de faire.
Voilà. On perdra pas beaucoup de toute façon.
Bon, oui, donc j'avais aussi prévu d'aller à la messe. Et puis donc, non seulement il y avait la pluie, mais aussi j'ai vu Béa vendredi soir et puis elle m'a parlé de sa messe qu'elle avait vue à la télé. Moi, j'y suis pas allé non plus à cause de ça ce matin.
Ah bon, je t'ai pas fait envie.
Ben, voilà. Alors, sinon, la religion catholique, c'est aussi, par exemple, les miracles. Et moi, je trouve absolument fantastique la façon dont le nombre de miracles a prodigieusement chuté au fur et à mesure que la science a pu progresser. C'est assez impressionnant. En fait, des miracles, il y en a plus. Ça n'existe plus. Donc, une religion où il n'y a plus de miracles, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser? Il y a aussi les saints. Alors les saints, c'est exactement comme le miracle. Forcément,
youkou,
comme
youkou, vive les saints, vive les saints.
Alors je parlais des
calendrier.
Saints. Oui, voilà, du calendrier. Hein. Donc les saints disparaissent. Hein. Il n'y a plus de saints. Enfin, il y a toujours les anciens saints, mais
il n'y a plus de saints.
Il y a plus de nouveaux saints.
Une taille de bonnet en 10 ans.
Oui. Donc les saints, S-A-I-N-T-S.
C'est pour avoir la place de mettre l'auréole.
Voilà. Donc il y a encore quelques béatifications quand même, de temps en temps, hein, des béatifications.
Bon.
Oui. Mais bon, les saints disparaissent, hein, donc franchement. Sinon, bah, dans les généralités sur la religion, parce que je vais arrêter là pour la religion catholique, j'aurais pas su trop quoi dire, si ce n'est que, bah, par exemple, le conducteur de la religion musulmane, c'est Mahomet. Il faut savoir qu'il est quand même monté au ciel sur un cheval ailé. Bah, moi, ça me convainc pas trop, ce genre de truc. C'est pareil, c'est un peu comme le sang du Christ. C'est
ouais,
pas bah, trop
il a bien marché sur l'eau.
Ouais, il y en a un qui a ouvert les mers, alors.
Donc vous avez bien compris.
Des trucs incroyables.
Le gynécologue ouvre régulièrement les mers. Des césariennes, il n'y a rien d'extraordinaire.
C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Jack l'Éventreur aussi a ouvert pas mal de mers.
Bon. Alors, sinon, de façon générale, il y a beaucoup de gens qui essayent de convaincre les athées de croire en Dieu en disant « Oui, mais le monde est si complexe, le mystère de la vie, on ne saurait l'expliquer s'il n'y avait pas un Dieu. » Ah oui, mais alors il faut expliquer Dieu. Si on veut tout expliquer, il faut aussi expliquer Dieu. Oui, mais Dieu ne s'explique pas.
Oui, c'est bon. Vrai qu'il vient d'où, lui ?
Bah oui. On peut toujours poser la question plus loin, donc moi, ça m'intéresse guère plus que ça. Comme chacun sait, les voies du Seigneur sont impénétrables.
Et ça, c'est bien pratique.
Voilà, donc c'est un ça peu la phrase standard qui explique tout, mais qui n'explique rien. Donc en fait, je suis bien content d'être athée. Je suis peut-être définitivement, comment dire, pourri. Je suis perdu.
Tu grilleras en enfer.
Je grillerai en enfer, voilà. Mais au moins, je pense que ça m'empêche pas de vivre heureux et puis d'avoir rien à me reprocher. Donc voilà. Hop.
Très bien.
Ça c'est fait.
Ça c'est de la conclusion. Hop.
Donc ça y est.
Oui,
c'est
oui, j'ai rien de plus à dire que finalement, je vis très bien sans la religion et puis je suis très heureux.
C'est fou, dans cette époque qui se voudrait être vraiment très religieuse, on sent que t'as été vachement inspiré par le sujet.
Oui, t'as vu ça un peu.
Ah ouais, ouais.
Oui, effectivement, j'étais très très inspiré par le sujet.
Eh ben écoute, bravo, hein, au moins on est sûr qu'on sera pas tout de suite catholique, pour ceux qui ne le sont pas, puis pour ceux qui le sont, je pense qu'ils le resteront aussi. Hein.
Oui, apparemment.
Et puis, j'aurais voulu rajouter quelque chose que j'ai bien aimé sur la chronique, c'est que si jamais je te cherche, Craig, j'irai pas te chercher dans une église.
Exactement.
Ça, c'est pratique,
c'était
ouais.
Hier.
Voilà, c'était la foi. Ou le manque de foi,
voilà,
je sais pas.
C'était la foi où tu pouvais le trouver, ouais. Effectivement. Voilà. Moi, je sais pas vous, mais nous, on rigole. Hein. Donc, il y a un tonnerre d'applaudissements pour Cray. Bravo.
Merci, merci.
Et donc, et ben maintenant, nous allons passer à notre chroniqueuse suivante. Valérie, à toi, donc, des recettes de sorcellerie. Nous t'écoutons.
Ben oui, moi, je me suis intéressé aux croyances. Je me suis dit, bon, ben, le catholicisme, moi, je connais par cœur. L'église, tout ça, c'est bon, je connais par cœur. Et puis, l'islam, le judaïsme, je connais pas du tout. Puis, les religions polythéistes qui sont marrantes des fois, ben, bof, hein, je connaissais pas trop. Puis, je me suis dit, ben, dans genre, la croyance auquel, moi, personnellement, je ne crois pas, il y a la sorcellerie. Et là, j'ai trouvé des recettes et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai voulu vous en faire profiter.
Bah écoute,
ensuite, on verra si les chroniqueurs de Quoique ont des dons de voyance et de sorcellerie. On fera des tests.
Pas de problème.
Alors pour commencer, je pense que ça vous est tous arrivé de vous faire mordre par un chien ou par un chat.
Oui,
ouais.
Ouais, assez régulièrement à la maison. Ouais.
Et bah, il y a une recette pour ne pas se faire mordre.
Ouais, c'est...
Alors il y a la recette numéro 1 qui est la mienne, c'est ne pas passer près d'un chat ou d'un
oui.
chien.
Ouais, moi je pensais que ça consistait bien, ça. Aussi à engueuler son chat pour qu'il arrête de mordre.
Mais la recette numéro 2, c'est vous avez une bougie brune et vous l'allumez face à la lune protectrice.
Une bougie brune, qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, c'est une bougie brune,
ouais,
de couleur brune.
C'est pour ça que le chat doit nous emmerder, c'est parce que la nôtre est blanche.
Ah ben non, mais ça marche pas alors. Et qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on l'a allumée ? Ça suffit pas, il faut dire « Belle lune, je te vois du côté gauche et du côté droit. » Toi qui, chaque soir, mets ton beau manteau violet, des miaulants et des aboyants, des crocs et des griffes, protège-moi. Vous voyez, c'est simple. Hein
ah oui, ah c'est ouais, avec ouais, le chat, ouais, le chat, il n'a pas peur.
Donc après, tu peux approcher un pitbull sans problème.
Aucun problème.
Ça marche.
Et si tu veux savoir, parce que des fois, on peut se dire, peut-être que quand même, je me ferais mordre par un pitbull. Alors tu te poses la question, tu veux la réponse. Et bien, il y a une solution. C'est un soir de pleine lune, tu fais un cercle avec, entre le pouce et l'index de ta main dominante. Très important, il faut connaître sa main dominante. Hein. Donc je pense que quand on est droitier, c'est la main droite. Bah bon. Mais peut-être pas, peut-être qu'il y a des pièges. C'est comme l'astrologie.
Oh, c'est un peu vague. Hein,
et ouais, donc vous, prenez, vous faites un cercle avec le pouce et l'index vers la pleine lune. Et il faut que dans votre cercle, vous voyez la pleine lune en entier. D'accord ? Et quand vous le voyez en entier, vous dites « Bonne lune, ronde lune, pleine lune qui apparaît, laisse-moi entrevoir le futur. » Ensuite, vous posez votre question. Et puis ensuite, vous écoutez la réponse.
Ah oui.
D'accord.
Ah
oui, c'est. Et quand il y a des nuages, on fait comment?
T'attends le mois suivant. T'attends le mois suivant.
Bah, si on veut jouer au loto.
Et alors, statistiquement, c'est efficace? Il y a le déchet.
Je pense que tout le monde connaît le futur avec cette solution. Bah, en fait, il y avait un test pour voir si les gens étaient voyants aussi là où j'ai sur le site internet où j'ai trouvé ça. Et la réponse, c'est que les gens n'ont pas utilisé cette méthode parce qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi à trouver le futur. Hein. En fait, personne n'a réussi à deviner le futur.
Et Nostradamus, il faisait comme ça pour prédire l'avenir ?
Nostradamus, attends, c'est hyper impressionnant. Il y a des histoires de Nostradamus, moi. Mais bon, je peux vous la raconter, remarque. C'est très marrant.
Bah, ça dépend, hein,
si ça vous intéresse.
Si c'est pas très long.
Alors, c'est une fois, Nostradamus, il était invité chez un type qui lui a montré qu'il avait deux porcelets, un porcelet rose et un porcelet noir. Et puis, bon, il lui montre les porcelets et tout. Et puis, il dit, pour rigoler, il dit à Nostradamus, et... est-ce que tu peux me dire l'avenir de ces porcelets ? Et Nostradamus dit le porcelet rose, nous allons le manger, mais par contre le porcelet noir sera mangé par les loups. Enfin, nous allons le manger, vous le mangerez, vous, à la maison et tout. Et alors le propriétaire de cette ferme dit tout de suite à son net cuisinier, bah, tu vas cuisiner le porcelet noir et on va manger le porcelet noir ce soir au repas, comme ça Nostradamus aura faux. Et le soir, arrive le soir, et il mange du porcelet rôti, c'est très bon et tout. Et puis le propriétaire dit à Nostradamus, bah, tu vois, tu t'es trompé parce que là on est en train de manger le porcelet noir que tu disais qui serait mangé par les loups. Et puis là il y a un des servants qui fait, en fait non, là on mange le porcelet rose. Bah, comment ça? Pourquoi on mange le porcelet rose? Mais, parce qu'en fait le porcelet noir on l'avait mis à cuisiner, puis il y a un loup qui s'est approché, puis qui l'a attrapé, qui l'a mangé, donc on a fait cuire le deuxième porcelet.
C'est dingue.
C'est incroyable.
Oh là là.
Et voilà, c'est beau d'être sorcier. Hein. Des fois, qu'est-ce qui peut vous arriver aussi d'autre? Vous pouvez avoir des mauvais sorts. Quelqu'un vous a acheté un sort et ça se passe mal pour vous.
Oh, le salaud.
C'est pour ça.
C'est pour ça, tout s'explique.
Vous ratez le train, vous arrivez avec une heure de retard. Et tout.
Ouais. Bah, c'est bien connu en Afrique, les équipes de foot, elles perdent souvent à cause de ça aussi.
Ben voilà. Et ben en fait, il y a une solution. Quand vous avez des sorts, vous ratez toujours le train, vous allez dans une forêt où il y a des pins. Ça vaut mieux parce qu'il faut ramasser 13 aiguilles de pin.
Ça fait mal.
Donc si vous ne ramassez pas 13 aiguilles de pin, ça ne va pas. Vous ramassez les 13 aiguilles de pin et une par une, vous les mâchez et vous les recrachez au sol. Et après,
oui,
vous répétez, une fois que vous avez mâché et recraché au sol toutes ces aiguilles de pin, hein, c'est presque aussi bon que le pin des Vosges. Hein. Vous répétez trois fois que ce sort mauvais soit banni, que ce sortilège soit fini. Que ce malin pouvoir s'en retourne à sa source noire.
Ça doit pas être facile à dire après avoir bouffé toutes ces aiguilles de pain parce que t'as la gueule en feu et tout.
Il fallait bien mâcher.
C'est ça la difficulté en fait du truc, il faut bien prononcer après. Bah, je sais de quoi je parle.
Sinon ça marcherait pour tout le monde. Hein. Or il se trouve qu'il y a des gens qui sont victimes de sortilèges, ça prouve bien qu'ils ont pas, ils arrivent pas à bien mâcher les aiguilles de pain.
Ouais, ils ont pas trouvé les aiguilles de pain.
Et si ça marche pas, j'ai une solution mais qui est un peu plus longue, qui est pour carrément se fabriquer une armure de protection, un bouclier magique, qui est fait d'un champ de force psychique. C'est utile, hein?
Ah bah oui, ça m'intéresse. Moi.
Voilà, alors déjà il faut visualiser la forme de ton bouclier magique. Hein.
D'accord, là c'est fait, c'est bon.
Alors ensuite il faut attendre la veille d'une nuit de pleine lune, donc je sais pas si c'est aujourd'hui ou pas. Et là il faut préparer un cercle magique. Alors au sud, on pose un chaudron. Au nord, on pose une chandelle blanche. À l'ouest, on pose une chandelle rouge. À l'est, on pose une chandelle noire. On les allume pas tout de suite. Et près de la chandelle rouge, on pose une coupe de cristal.
Attends, il faut avoir le matos quand même.
Attends,
ah oui, non, ça c'est plus
la
compliqué.
Fortune,
hein.
La fortune des marchands de chandelles.
T'es en train de te fabriquer une armure de protection, hein, ma petite. Hein.
Ah ouais, mais où est-ce qu'on trouve un chaudron?
Bah, tu vas dans une brocante.
C'est une chaudronnier.
C'est une marchande de chaudron.
Bon, t'as déjà trois chaudrons. Alors te plains pas. Pour vraiment matérialiser le cercle, on prend de la menthe, de la marjolaine et du romarin et on les broie en poudre fine et on les parsème pour faire le cercle autour de tous ces trucs là, de ces chandelles et de ce chaudron. Ensuite, dans la coupe de cristal, on met 15 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, d'eau liban. Alors je sais pas ce que c'est que l'eau liban.
Ah bah voilà, il faut la trouver
à
aussi.
Part que le liban c'est au Moyen-Orient, mais l'eau liban par contre je sais pas ce que c'est. 15 gouttes de jasmin aussi, d'huile essentielle de jasmin, 15 gouttes d'huile essentielle de lavande, et on complète à l'huile d'amande douce. Donc ça, l'huile d'amande douce, je sais où ça se trouve, c'est en rayon puériculture. Ouais. Ça, je le sais, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc on met tout ça dans la coupe, et là on attend la nuit suivante. Hein. Alors on commence par prendre un bon bain. Il y en a qui disent que c'est pour se laver, mais en fait c'est pour se débarrasser des influences négatives. C'est pas exactement pareil. Hein.
Ensuite, moi, je me suis toujours lavé pour ça.
On fait tous les jours.
Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas d'armure protectrice encore depuis le temps?
Parce qu'il a pas de chaudron.
Bah voilà.
Ouais, d'accord. Ensuite, il faut mettre des habits blancs. Parce que c'est la pureté. Alors, à l'est, on fait brûler. Donc, à l'est, c'est là où il y avait la chandelle noire.
D'accord, la chandelle noire à l'est. Noire, ouais. D'accord.
Oui. Et là, on fait brûler de l'encens de myrrhe.
De ensuite, l'encens de myrrhe.
Express.
Non oui. Non, myrrhe, comme la myrrhe, l'encens, et qu'est-ce qu'ils ont offert d'autre, les fromages
MYRH.
Oui, voilà, tout à fait. Ils ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Voilà,
ah, c'est d'accord.
Et donc, on fait brûler de l'encens de myrrhe, on allume toutes les chandelles, et on se tourne vers l'est d'abord. Et on dit, par le pouvoir du soleil levant, le
par
mal,
le pouvoir du crâne ancestral.
Et tiens, la force.
Et hop, t'as ton bleu qui est magique.
Et eh ben dis donc, t'es pas prêt de l'avoir. De là, hein. T'es pas sérieux, Numa, t'es pas prêt d'avoir un bouclier magique alors que je te donne toute la recette.
Rigolez pas avec ça, on va s'attirer des ondes
et
négatives.
Et au Liban, t'écris ça comment au Liban?
O-L-I-B-A-N.
C'est pas de nom de Nico.
Et ben il y a ça dans tous les bouquins de sorcellerie.
Propre,
hein.
Nom propre alors.
Il y a ça dans tous les bouquins de sorcellerie. Tous ceux que j'ai vus en tout cas.
Donc vas-y, donc, dis-nous la phrase donc, magique là.
Par le pouvoir du soleil levant, le mal ne fait plus partie de ma vie. Ensuite, on se tourne vers le sud, vers le chaudron. Par le pouvoir du soleil de midi, je retrouve le contrôle sur ma vie. Ensuite, on se tourne vers l'ouest. L'ouest, c'est quoi? C'est la bougie rouge et la coupe de cristal. Par le pouvoir du soleil couchant, mon armure se forme et m'enveloppe complètement. Ensuite, on se tourne vers le nord, vers la chandelle blanche. Par le pouvoir sacré de la pleine lune, je ne suis plus seul, j'ai maintenant de l'aide. La grande déesse a tissé mon armure de lumière qui me garde et me protège nuit et jour. J'ordonne aux forces négatives et à l'énergie du mal de se retirer. C'est pas encore fini, hein. Ensuite, on prend l'huile. Là, l'huile où on avait mélangé toutes les huiles essentielles. On agite, et on met une goutte sur le front, une goutte sur le cœur, une goutte sur le plexus solaire, une goutte sur chaque poignet, et une goutte sur les chevilles. Ensuite, on fait ce qui est conseillé dans tous les bouquins de beauté, hein. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'on fait pénétrer en faisant tourner par petits mouvements circulaires. Oh.
Ils ont rien inventé en fait.
Et pendant ce temps, c'est très important parce que pendant qu'on fait pénétrer par petits mouvements circulaires, on visualise une lumière bleue qui descend sur vous et vous entoure complètement. Il faut la voir se cristalliser en une armure scintillante qui vous protégera des influences négatives en agissant comme un miroir qui retourne ses intentions néfastes à leur source. Je crois que ça marche automatiquement quand on est en train de se masser avec cette huile magique. Hein. On ouais. voit tout ça. Hein. Mm-hmm. Mais si vous le voyez pas, c'est que vous n'êtes pas vraiment sorcier.
On a le droit de prendre des notes ou il faut tout faire ça de mémoire ou
Je pense que si on fait pas ça de mémoire, c'est qu'on n'est pas vraiment sorcier. Hein.
Ah ouais, c'est vrai.
Et c'est valable pour combien de temps? Faut le refaire tous les
non,
mois.
Non, mais quoi attendez, parce que si vous arrêtez là, vous croyez que vous avez une armure, mais pas encore
mais
tout
pas
du tout.
Tout.
Parce
ah,
que, bah oui, c'est comme ce qu'on dit toujours aux enfants, dis merci à la dame. Là, il faut remercier les énergies bénéfiques ah. pour leur aide et il faut éteindre les chandelles. D'accord. Bon, bah alors on va continuer juste pour voir si vous avez de la voyance, si vous avez des dons de voyance. Il y a deux enveloppes, ah, il y a bah chacune, oui. il y a une photo dessus. Dites-moi ce qu'il y a ce que représente la première photo et la deuxième photo.
Où ça, les enveloppes?
Ah bah de toute façon elles étaient scannées sur internet, j'ai pas vu l'intérêt d'imprimer des enveloppes qui avaient été scannées sur internet, donc c'est pas grave, on va voir si vous avez autant de dons de voyance que les gens qui ont regardé ces photos de scan.
Moi je vois bien des trucs là, mais je peux pas en parler comme ça.
Moi je sais pas, comme le thème c'est la religion, on va dire que comme on a vraiment tous un esprit de voyance, on a dit Jésus et puis Mahomet, voilà, toc.
Pas du tout.
Bon. Britney Spears.
Ah mais c'est des photos de, ça peut pas, c'est pas forcément des gens hein, qui est sur la...
Ah, un chaudron.
Non.
Je ne vois rien, je me pose sur les enveloppes.
Un crapaud.
Moi, je pense, j'ai l'impression que Béa, déjà, elle est pas mal, en fait, quand même. Hein.
Ah, alors
là, pour l'enveloppe numéro 2, franchement, si j'étais le... Enfin, je vois comment le type qui a fait ce site internet réagissait. Et quand c'était un lac, c'était déjà pas mal et tout. Que je pense que tu te débrouilles bien, t'as déjà des dons de voyance. Bon, Cray, toi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme photo? Qu'est-ce que ça représente?
À manger?
Non, pas du tout. C'était pour la première, ça, j'imagine. Pour la deuxième?
À boire.
Oui, très bon, très bon, très bon. Très bon. Ah, t'as des dons de voyance, je pense. Numa, sur la première enveloppe, qu'est-ce que...
Un carré.
Pas mal, pas mal, pas mal. Et la deuxième ?
Un cercle.
Oui, si, 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 si. Il y a vraiment de l'idée. Je pense que t'es presque le plus voyant de nous. Bah, et David, tu nous as pas dit toi. Bah,
moi, je vois des trucs, mais c'est beaucoup plus flou. Moi, je vois toi comme une forme, mais ça reste encore flou pour le premier.
Voilà, bah, je trouve que t'as vraiment des dons de voyance, parce que c'est comme ça qu'ils parlent les voyants en général.
Et puis sur le deuxième, je vois aussi un truc. Ça, c'est aussi comme une forme, mais pas la même.
Alors, comme.
Ah ouais, c'est un super voyant, moi je suis épaté là.
Alors en fait, je vais vous dire ce qu'il y avait sur les photos et c'était déjà écrit, vous pourrez vérifier donc que je mens pas et c'est pour ça que je. Le premier c'était un chaton dans des billets, au milieu de billets de banque donc en effet, les carrés, je trouve que c'était ce qui était le plus proche comme
un chaton.
Oui.
Mais ça se mange
Non Et la deuxième, c'était un arc-en-ciel dans une cascade donc en fait, oui, tout ce qui était l'eau, tout ce qui tournait autour de l'eau, mais aussi le cercle, c'était très bien. Et en effet, le mec avait trouvé parmi les réponses qu'il avait trouvées très bonnes, il y avait quelqu'un qui avait dit un œil pour la première et pour la deuxième une flèche. Et comme les chats ont des yeux et que l'arc-en-ciel, il y a arc et donc il y a des flèches, il trouvait que c'était une bonne réponse. Donc voilà, moi je trouve que vous n'avez pas des mauvais dons de voyance et vous m'impressionnez pas mal. Voilà.
Bah oui, non mais on est fort.
Mais c'est ça.
Bah écoute, c'était ta conclusion ?
Mais oui, c'est ma conclusion. Vous êtes des voyants, c'est bien comme conclusion.
C'est magnifique, un tonnerre d'applaudissements, bravo ! Donc maintenant, prochaine chroniqueuse, Béatrice, qui a passé des dimanches absolument fous.
Et donc qui va nous parler de la religion catholique.
Voilà, sous sa couette, en train de regarder la télé. Non, vas-y, on t'écoute. Et elle a ramené tous les dictionnaires qui existaient dans le coin. Ça
non, on sait jamais, oui. Si
dans les lesquels il n'y a pas au Liban.
Bah voilà. Oui, ça te plaindra à Robert. Donc la religion, nous grand t'écoutons. Sujet d'actualité, et ce depuis la nuit des temps. Mais sujet difficile, épineux, à en croire le nombre d'émissions, de débats, de reportages qui lui sont consacrés à la télé. En effet, il ne se passe pas une semaine sans un programme télé qui débat sur le port du voile à l'école, la montée de l'antisémitisme en France, pas plus tard que jeudi soir, l'intégrisme religieux qui crée des fanatiques, voire même des terroristes, etc., etc. Mais aujourd'hui, moi, j'avais pas envie de refaire ces débats. Les émissions de Calvi ou d'Emmanuel Chin ou Campus de Durand s'en chargent très bien, avec des invités spécialistes de la question. Alors parce que moi je ne le suis pas du tout, spécialiste, j'ai grandi dans un contexte athée, je ne suis jamais allée à la messe, je n'ai jamais été convertie à une autre religion, bref, je n'y connais rien du tout. Donc, je me suis tapé les 4 heures d'émission religieuse du dimanche matin sur France 2, j'en ai regardé qu'une, c'était celle du 4 avril, et c'était peut-être...
C'était la meilleure.
Mais oui, parce que... Bah pour les catholiques.
En tout cas,
oui.
Bravo.
Mais
bravo.
C'était Pâques.
Quel courage, quelle abnégation.
Non, justement, pour les catholiques, c'était une journée importante. Ce n'était pas Pâques, c'était les rameaux.
Ah oui, voilà.
Ouais. Donc, jour important quand même. Et donc, les émissions religieuses, là, c'était peut-être les seules émissions de télé que je n'avais jamais visionnées de ma vie. J'avais vraiment, mais jamais vu. Donc, je vais tout simplement vous raconter ce que j'y ai vu. Donc, ça commence vers 8h30 par la voix bouddhiste. Alors il n'y a pas de messe ou de rite, un truc filmé. En fait, parce que moi c'est un peu ça que je m'attendais. Et en fait pas du tout, c'est une interview qui se déroule dans un décor très pauvre, pour qu'on se concentre sur ce qu'ils disent et pas sur le décor. Et l'invité du jour, c'était une écrivain japonaise, japonaise ou chinoise, je ne sais plus trop, Yoko Orimi, qui vit en France depuis 25 ans. Ce qui l'a pas empêché de garder un accent asiatique très très marqué qui rendait un peu son discours très difficile à comprendre. Enfin bon.
Mais comme c'était pas intéressant.
Il n'y avait effectivement pas que l'accent qui rendait le tout un petit peu difficile, parce qu'elle nous a parlé de son bouquin et je n'ai pas tout compris. Donc c'était un bouquin sur un certain Dogen, moine japonais du XIIIe siècle, qui après avoir vécu au Japon et tout ça. Il en a un peu marre de ce qu'il y voit. Il part en Chine pour s'initier à l'enseignement d'un autre moine, dont j'ai pas retenu le nom parce que c'était pas marqué. Et donc avec son accent, j'ai pas compris. Et son enseignement consistait à, et dans le texte, hein, être assis pour se déplier du corps et du cœur.
Mais c'est super intéressant, ça.
Donc ils sont assis, ils ne dorment pas, c'est interdit. Mais il n'y a aucune activité extérieure. Donc bref, ils en ont parlé pendant un certain temps, et après, le reste du bouquin, c'était des textes de ce fameux Dogen qui se pose la question de l'intérêt de la transmission. Mais là, j'avais petit peu décroché, je vous avoue.
Franchement, et si c'est pour regarder des émissions sur les moines japonais, je te conseille plutôt Shaolin Saucer, le film sur les moines japonais Shaolin qui font du foot.
Ah bah là, non, ils faisaient rien, ils étaient assis. Puis, donc de toute façon, j'ai pas tout compris. J'ai quand même compris la conclusion de l'émission.
Ils parlaient français.
Oui, mais non, mais c'est vrai que c'était hyper ardu à suivre. Par contre, j'ai donc quand même compris la conclusion de l'émission. Soyez heureux et donnez de la joie autour de vous. C'est la zen attitude.
Mais sur le bouddhisme, il y a une très bonne bande dessinée. Ça s'appelle Ikkyu. J'en avais déjà parlé.
On a parlé déjà.
Ben, ouais, mais c'est sur le bouddhisme, mais c'est vachement bien.
Ouais. Bah là,
donc, je la replace. Là, en plus, là, dans le propos.
Là, la journaliste nous a montré plein de bouquins, mais c'était sur le zen, mais il n'y avait pas de bande dessinée.
Il
n'y
avait pas de BD.
Ikkyu, ça a l'avantage d'être agréable à lire et en plus abordable. Très complet, mais abordable quand même.
Bah, j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce que là, effectivement, je n'ai pas tout compris. Alors, donc, c'est pas grave.
Donc, voilà pour le bouddhisme, alors.
Voilà pour le bouddhisme. Parce qu'après, la deuxième émission, on passe à l'islam.
Donc, on passe à l'islam. Et avant qu'on se fasse allumer sur Internet, il faut préciser que le Shaolin Soccer, c'est un film, c'est des Chinois. Les moines Shaolin sont chinois, ils ne sont pas japonais.
Donc, je peux passer à l'islam maintenant ?
Ouais, vas-y.
Je te remercie. Donc, la deuxième émission est consacrée à l'islam. Et c'est pareil, se présente sous forme d'interview. Et ce dimanche-là, le sujet a été, ma foi, très intéressant. En gros, la question posée était quel avenir pour les musulmans de chez nous ? Et il y avait deux invités pour y répondre. Rachid Benzim, un universitaire, chercheur et écrivain. Et Talek Oubrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux. Donc ce sont deux personnes extrêmement brillantes, extrêmement cultivées, qui s'expriment excellemment bien, mais du coup qui sont quand même assez difficiles à suivre, parce que justement, moi je n'ai pas du tout leurs connaissances et leurs références, donc j'étais un petit peu perdue dans leurs arguments. Ce que j'en ai retenu
tout du moins...
C'est
un peu exprès, non ?
Bah, en tout cas, c'est très spécialisé. Ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est que, en gros, essayer de résumer tout ce qui a été dit et qui était très intéressant, que les musulmans qui vivent en Occident vivent en ce moment comme une crise identitaire parce qu'il est difficile de différencier l'islam comme foi ou comme culture de vivre. Et comme le dit le Rachid Benzim, là, l'universitaire, il faudra du temps pour que cette nuance soit faite. Il faudra que le chemin soit parcouru, comme ce qui a été fait justement par les catholiques et qui justement fait que des gens comme nous, enfin par exemple, tu as pris la parole tout à l'heure, t'es athée, moi aussi, mais effectivement, on est ancré dans une culture judéo-chrétienne parce que bah voilà, on est né quand même dans cette culture-là, on peut pas y échapper.
Oui,
or apparemment. Voilà, c'est un héritage culturel.
Et puis ils ont fait des efforts avec Vatican II aussi. Non, il y a puis... plein d'évolutions dans l'Église.
Voilà. Ah bon, il vient de sortir, il est dans quelle salle ?
Et que l'islam, justement, enfin les musulmans, les musulmans de chez nous n'ont pas peut-être encore fait tout ce cheminement et donc il faudra du temps. Et c'est vrai que ce Rachid Benzim avait d'ailleurs une vision très moderne de l'islam, c'est-à-dire qu'il la conçoit s'inscrivant dans une vie moderne grâce à l'héritage historique, mais nuancé par d'autres enseignements comme les sciences naturelles, l'histoire, etc., etc. Et il ajoute aussi que cela permet une meilleure compréhension de, ou même analyse du Coran.
Et c'est vrai que les sciences naturelles, c'est ce qui permet de faire des petits musulmans.
J'ai pas compris.
C'était l'avis d'une spécialiste.
Ok. Donc j'en étais où ? Oui, donc... Donc les deux invités étaient complètement d'accord sur le fait qu'il y a un gros problème de transmission de la loi coranique à cause de l'interprétation que certains en font, parce qu'ils ne font pas tout le travail de réflexion qu'il faut faire sur le Coran avant justement de pouvoir l'analyser, de pouvoir la citer, et que justement ces gens qui ne font pas tout le travail de réflexion dessus oublient un peu justement la pensée de Dieu et se servent d'arguments ou de certains versets qu'ils tirent de leur contexte, et c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui forme des formes d'intégrisme et voire plus loin.
Il faut être universitaire pour comprendre ça.
Non mais c'était très intéressant, mais c'est vrai
pour
que c'était super dur, mais ouais,
pour le dire,
mais c'était super dur à suivre parce que effectivement ils ont des références, eux ils ont étudié ça toute leur vie et ouais, c'était très intéressant, mais très très dur à suivre.
Ouais, puisque
donc voilà.
Ce qui est triste quand même, c'est qu'ils ont oublié de rappeler aussi qu'aux alentours du 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, en fait, l'islam, il était loin devant. et aux alentours d'Istanbul, enfin tout l'Empire byzantin, si ça a survécu, enfin si la religion chrétienne a survécu comme ça, c'est parce que l'islam a conservé et ils n'ont pas détruit en fait tout notre art.
Mais tu sais pas s'ils ont oublié de dire tout ça, parce que effectivement là ce n'est qu'un bref résumé.
Oui, ils en ont...
Parce qu'à mon avis, ils sont quand même vachement plus calés que toi, ça y a pas de souci.
Oui, mais bon, c'est dur,
je pense qu'ils connaissent cet épisode-là.
Oui, mais je trouve ça dommage, hein, si tu veux, de pas le rappeler, de pas rappeler qu'à ce moment-là,
c'est une émission, ils peuvent peut-être pas le rappeler tous les dimanches.
Ouais, exactement, voilà. Regarder merci. Tous les dimanches,
voilà,
pour,
exactement.
Ils peuvent pas parler de la même chose.
Et là, il y avait quand même une question, et si, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste essayé de vous résumer très brièvement ce que j'en ai retenu, parce que c'est absolument pas facile à retranscrire tout ce qui a pu être dit, parce que oui, je n'ai pas, moi, les références, donc, c'est
moi,
très dur.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'ils pourraient le répéter chaque semaine parce que c'est des émissions qui sont fondamentalement assez chiantes en fait et qu'il y a plein de gens qui les regardent juste une fois en fait. Donc, c'est vrai qu'ils pourraient le regarder, le répéter.
C'est vrai qu'ils pourraient en faire qu'une.
Oui, la repasser en boucle.
Voilà. Déjà qu'il y en a qui la regardent
même
jamais.
C'est une de toutes celles que j'ai regardées que j'ai trouvées les plus intéressantes et que ce serait les deux invités là, ce serait on pourrait très bien les retrouver dans d'autres débats.
Peut-être aussi parce qu'ils collaient un peu plus à l'actualité sur des problèmes.
Et voilà, et parce qu'en plus c'était au lendemain, enfin quelques jours des attentats de Madrid, ils en ont parlé justement et ils parlaient de l'intégrisme. Et c'est vrai que le passage que j'ai préféré, c'est quand ils parlaient effectivement de l'analyse de la loi coranique, parce que on sait à quel point ça peut entraîner des problèmes. Et justement, je trouvais qu'ils l'expliquaient très bien. Et moi, je suis pas en mesure. Et puis, de toute façon, on m'a dit que j'avais droit qu'à 10 minutes. Donc, je peux pas répéter tout ce qu'ils ont.
Reste, mais on...
Donc, je passe aux Juifs. Donc, c'est, je peux à vers quelle heure? Une heure après. Donc, on passe à l'émission juive. Et là, ça s'appelle Source de vie. Et ça diffusait ce dimanche-là un reportage sur les Juifs caraïtes de San Francisco qui fêtent la Pâque à l'ancienne. Alors, j'ai appris plein de choses. Évidemment, surtout
moi, déjà, j'apprends qu'ils fêtent Pâques.
Exactement.
Parce que Pâques, c'est comme la mort de Jésus.
Mais non, c'est exactement. Je ne savais pas qu'il y avait une Pâque juive qui est à peu près deux semaines avant la nôtre.
Jésus, il est juif, hein, Jésus, ouais. Quand même.
Bah, de toute façon, ils ont les mêmes origines.
De toute façon, la Pâque, c'est la politique agricole commune.
Non. Non, là, je crois qu'il y a un cul dans Pâques. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que les Caraïtes? Eh bien, ce sont des Juifs, mais avec une certaine nuance, qui obéissent à la Bible, donc le Talmud, mais pas aux rabbins. Et pourtant, il y a des rabbins quand même. Enfin, là, c'est pareil. J'ai pas trop tout saisi les nuances.
C'est très clair, comme d'habitude.
Voilà,
comme
d'habitude. Et après, il y a quelques justement différences avec les autres Juifs. Déjà, je ne sais même pas qui c'est les autres Juifs.
Il y a
quelques voilà. Il y a quelques différences dans les règles alimentaires,
il y a les
Ashkenazes
et les Séfarades.
Voilà. Ouais. Et justement, dans le reportage, il comparait un petit peu, et notamment la différence des règles alimentaires, d'hygiène, de rites, de fêtes, etc., etc. Donc, là, c'était un truc où il filmait la Pâque juive. Et donc, c'est une Pâque qui dure une semaine. Et donc, là, vous voyez comment, en gros, ça se déroulait chez cette communauté caraïte à San Francisco, qui sont quand même très, 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 très pratiquants.
Mais ils fêtent quoi exactement
Alors, justement, je vais te raconter, les festivités donc durent une semaine. Et au début, déjà, ils commencent par nettoyer la maison, mais de fond en comble. Parce qu'il faut dégager la maison de... Oui, il faudrait que les Caraïbes viennent ici. Parce qu'il faut enlever les traces de pain dans la maison. Parce que le pain et les céréales et tout ça sont impurs, ou je sais pas quoi.
Donc, cause des gens qui ont craché plein d'épines de pain.
Bah voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non, du pain PAIN.
Cela dit, ici, on risque rien, ils ont oublié d'en acheter, donc...
Donc eux, ils préparent la bouffe pour toutes les festivités, et notamment donc leur propre pain, le pain azim. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler du pain azim, oui. Parce que c'est un pain qui n'est pas fait avec des céréales. Ils nous donnent la recette.
C'est kizim.
Et ils préparent aussi leur vin.
Un petit chauve à la télé.
Ils préparent aussi leur vin qui n'est pas du vin.
Ouais, mais il faut que tu donnes aussi si la
je donne ce que je veux.
Non, mais la raison de la Pâque juive, en fait, pourquoi est-ce qu'il fait de la Pâque juive?
Mais ce n'était pas dans le reportage.
Ah bon, d'accord.
Donc moi, je vous raconte juste ce que j'ai vu et ce que j'ai compris avec mon regard athée.
À la télé.
Voilà. Et donc après, le plus gros du reportage, c'était le grand repas festif. Alors le Seda, apparemment, non, le Seder, apparemment, ça s'appelle comme ça. Qui normalement se déroule en famille, mais là ils avaient choisi de le faire avec toute la communauté, donc dans une salle et tout ça. Et l'ensemble du reportage a en fait filmé tout ce repas là. Donc ils commencent, bon, ils sont tous réunis, et évidemment ils commencent par un discours qui rappelle l'exode des juifs égyptiens. Alors je sais pas s'ils étaient tous d'origine égyptienne, je sais pas, mais bon, c'est ça qu'ils racontent, au temps des pharaons.
C'est l'histoire des 10 commandements, ça.
Et ben, on connaît bien sûr, voilà, on connaît certains bouts, mais après c'est quand même. Mais après il y a quand même d'autres trucs. Et donc après ce discours-là, ils font évidemment une prière, et après là c'est là que ça commence à être un peu longué, parce qu'ils lisent tous ensemble, hein, toute la salle là, les récits bibliques, donc les psaumes qui parlent de Dieu, de l'Égypte et tout ça. Et visiblement, je n'étais pas la seule à trouver ça un petit peu chiant, parce que j'en ai vu dans la salle quand même qui ne disaient rien du tout et qui avaient franchement l'air de s'emmerder, parce qu'en plus ils parlent comme ça, ils chantent à moitié comme ça, et en hébreu.
En gros, c'est un peu chiant. Bouffe, ça c'est sympa, mais après ils prient,
ça dure des plombs et ils n'ont toujours pas mangé. Alors bon, à un moment donné, ils disent enfin, ils vont commencer à manger. Ah. Et en fait, non, ils commencent pas tout de suite à manger parce qu'ils commencent déjà par goûter. Voilà, le vin et ce fameux pain azim et des herbes amères ou je sais pas quoi et tout. Et là, rebelote, reprière. Alors ça dure encore des plombes. Il prie, il remercie Dieu, toujours en chantant à moitié comme ça. Ça dure encore un certain moment. Et là, enfin, ils mangent. Enfin, ils essayent. Parce que, en fait, s'ils se réunissent comme ça, c'est justement l'occasion pour les familles, les amis et tout ça de se réunir. Donc, en fait, la moitié de la salle est déjà
debout.
Pour
marier la petite.
Peut-être. Pour aller voir son voisin et tout ça, pour causer. Et en plus, il y a le rabbin qui passe dans la salle pour interroger je sais pas si on appelle ça des fidèles, pour savoir s'ils ont tout bien suivi, hein, sur les psaumes, s'ils ont tout bien compris. Donc, c'est à moitié une interrogation.
Ah, il y a une interro à la fin, c'est incroyable.
Ouais.
Donc, parce que sinon on recommence si vous n'avez pas tout bien suivi.
Et donc bon, ils arrivent quand même à manger. Et quand ils ont fini de manger,
là on est en train de payer. En fait.
Rebelote, prière et donc toujours en chantant et récitation des grâces. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est la récitation des grâces. Et après, moi j'ai pas trop fait la différence justement à regarder entre les prières, les grâces, les trucs, les salutations, les remerciements. Pour moi ça se ressemblait, mais bon. Et donc après, il y a encore une collation pendant l'office, et à chaque fois, eh ben, il faut reprier pour remercier, etc. Donc en fait, t'es pas prêt à faire la vaisselle, quoi. Donc le reportage,
en quelle langue ?
En hébreu, mais ils étaient justement, le mec, la voix off du reportage insistait là-dessus, c'est que ils ont quand même une envie de moderne, c'est-à-dire qu'il y a la parité, c'est-à-dire que les femmes sont acceptées. J'ai même vu des femmes avec la kippa, alors je savais pas que. Enfin bon.
Ouais, mais si, écoute.
Et ils traduisent justement, bon, c'était à San Francisco, ils traduisent en anglais justement pour un souci pédagogique, pour essayer quand même de ramener des gens et que tout le monde comprenne et que tout le monde suive.
Ouais, mais écoute, j'ai une copine qui est descendue à Los Angeles pour faire une école rabbinique et ça, je savais pas non plus que les filles maintenant pouvaient faire des écoles rabbiniques.
Ouais, si. Justement, ils ont un souci de
mais
de
pas moderne. Partout. Ouais. Ça dépend des.
Bah, de toute façon,
de la mouvance.
Oui, sûrement.
Mais là, j'ai pas tout compris.
Bah, non, moi non plus. Et donc, le reportage se termine enfin par, devinez quoi, bah, une prière, forcément. Donc, après toutes ces prières, on passe à la mission suivante, Agapé. Alors, il me semble que c'est les missions protestantes, mais la définition du titre, donc Agapé, c'est repas en commun des premiers chrétiens, ça ne me dit pas grand chose. Et le contenu de l'émission, pas vraiment non plus. Parce que c'est encore une fois de plus un débat, et animé par qui ? Hervé Claude. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Hervé Claude, un présentateur du JT, pendant des années. Et ben on le retrouve là, je ne sais pas. Et la question du jour, c'est Dieu interdit-il le suicide ? Et ben au bout de trois quarts d'heure d'émission, en fait, je n'ai pas vraiment eu la réponse.
Tout le monde s'est suicidé.
Non. Bon, je ne dis pas que j'ai été super attentive non plus, hein. Je décrochais un petit peu par moment.
Il était quelle heure, là ?
C'était pourtant très intéressant. Ben, il est 10h.
10h, ah ouais.
10h. C'était donc très intéressant, mais il y avait sur le plateau pas que des gens religieux, il y avait un psychiatre, une historienne qui était très intéressante parce qu'elle connaissait vraiment plein de choses, une pasteur, je dis une pasteur parce que bon, c'est un pasteur, mais c'était une femme, et une théologienne, je crois, bon, spécialiste de la Bible, qui la connaissent par cœur, etc., etc. Et au final, bah, j'ai trouvé qu'ils avaient vachement plus parlé, ils n'avaient pas tellement parlé de Dieu, ils avaient vachement plus parlé des explications, enfin essayer d'expliquer les tentatives de suicide, le suicide, et comment le prévenir. On a vu d'ailleurs un petit reportage sur SOS Amitié, donc ça existe toujours, SOS Amitié, mais pas vraiment comme dans le Père Noël. Et le psychiatre, effectivement, essayait de parler de la prévention qui pouvait être faite au niveau médical, etc. Donc en fait, je trouvais qu'ils n'avaient pas tellement parlé de Dieu. Mais bon. avec tout ça, il est déjà 11h, et à 11h, c'est la messe. Ah bon?
Ouais!
Ah ouais, super!
Bah, moi, je fais un autre truc à 11h, mais.
Alors là, à 11h, c'est la
le dimanche
messe.
Dimanche matin?
Non, mais,
c'est pas téléfoot aussi?
Moi, j'ai pas zappé, hein, promis. Et donc, c'était donc l'émission du 4 mars que j'ai regardée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était la messe des rameaux. Et ils ont choisi, alors là, par contre, ça m'intéressait parce qu'ils ont choisi de filmer, c'est un hasard, celle de Plougastel d'Aoulas. Donc, charmante petite bourgade du Nord Finistère, célèbre pour ses fraises, mais aussi pour son calvaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les calvaires bretons.
Et son calva, hein. Non?
Ah, non. C'est plutôt du site chez nous. Du chouchen.
Donc, ils boivent du calvaire aussi, ils font pas les difficiles.
Les calvaires, c'est les monuments, là, avec plein de petits bons hommes qui racontent, en fait, un passage de la vie, de leur histoire. Donc, c'est typiquement breton. Et d'ailleurs, la cérémonie qui était célébrée par l'évêque de Quimper, Monseigneur Guillon, pas breton du tout non plus.
Guillon.
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 Ça s'appelle Guillou. Mais dis Guillon.
C'était Guillon.
Et donc la messe commence au pied du calvaire, où s'attroupe plein de monde, et il y avait même quelques enfants vêtus en tenue traditionnelle bretonne. Et en plus, tout ça était sur fond de bombarde. Je trouvais ça très local, parce que donc, je suis bretonne. Je trouvais ça sympa. Mais bon,
c'est vrai que ça bombarde beaucoup en Bretagne.
Mais donc après...
Surtout à 11h.
Ouais, c'est vrai qu'ils ne le sont pas tous, c'est un peu qu'ils sont au café en face.
En 44 aussi. Ouais.
Et d'ailleurs, là, les petits gamins qui étaient habillés en breton, ils auraient peut-être préféré aller quand même au café d'en face parce qu'ils avaient franchement l'air de s'ennuyer.
Bah oui,
c'était pas du tout l'évêque.
Il y en a qui n'ont pas de bol.
Toutes ces phrases aussi comme ça.
Bah, c'est clair que c'est pas en allant à la messe qu'ils deviendront champions de baby-foot. Hein.
C'est tout jamais. Non, parce qu'ils y vont après la messe.
Les voix du Seigneur sont impénétrables.
Oui, parce que moi, personnellement, quand j'ai fait mon catéchisme, on arrivait tous vachement à l'heure chez la dame qui nous faisait caté, parce qu'il y avait un flipper dans la cave.
Donc,
on faisait une heure de flipper avant, mais je pense que c'était un piège pour nous attirer.
C'est possible.
Et chez le curé, après, eh ben, il y avait un baby-foot. Et on arrivait aussi en avance pour jouer au baby-foot. Je pense que c'était aussi un piège.
Et t'as arrêté la messe le jour où t'as découvert qu'au milieu de l'église, par contre, il n'y avait pas de baby-foot,
ni de flipper, ni rien.
Effectivement, là, il n'y en avait pas, parce que bon, ils étaient donc tous dehors. Et après, ils sont rentrés dans l'église en suivant le Monseigneur, là, qui est en train d'arroser tout le monde, d'ailleurs, avec son rameau trempé dans l'eau bénite. Il n'a pas arrêté d'arroser tout le monde, pas sympa, hein, pour une fois qu'il ne pleuvait pas, vraiment pas sympa. Et donc bah là j'en avais marre parce qu'il n'y avait plus de bombarde, alors j'ai arrêté là. Donc j'ai pas suivi toute la messe. Bon, une messe, hein, on connaît, hein, ils parlent tout le temps comme ça. Ils chantent beaucoup, assis, debout, bon, on connaît quoi. Donc il me reste à...
Darty vous racontera parce qu'il a regardé plusieurs fois la messe le dimanche matin. Bah, il connaît bien ça.
Oui, dimanche dernier.
Ses grands-parents, ils regardent et lui, il regarde du coup aussi un petit peu.
Et dimanche dernier, il y avait la messe de Pâques justement, mais c'était celle du Vatican avec le pape et tout. Et donc on en a vu quand même quelques images aux 13h, donc il n'y a pas besoin de se lever à 11h.
Ça manquait pas un peu de rythme?
Bah, enfin voilà, et donc justement, il me reste à conclure. Pendant que je me suis tapé donc ces 4 heures d'émission religieuse, une seule question me revenait en permanence: qui regarde ces émissions? Alors, parce qu'en ce qui me concerne, moi athée, je trouve relativement intéressant, comme ça une fois, de voir des reportages filmant les rites et traditions de chaque religion, parce que ça permet de mieux connaître un petit peu leurs pratiques, quelles soient. Donc ça, à la limite. Et puis quant au débat, je vous l'ai dit, ils étaient très bien et très intéressants, mais ils me semblent adressés à des gens très cultivés et très très au courant de l'histoire, des religions. Et donc il fallait quand même justement les dictionnaires à côté, parce qu'à chaque mot de vocabulaire, moi, ça me larguait un petit peu. Donc c'était pas facile. Donc alors voilà, je ne pense pas que je regarderai à nouveau ces émissions. Mais il faut signaler qu'elles font partie de la mission du service public à la télévision, que toutes les tendances religieuses sont représentées, pas forcément tous les dimanches, puisqu'en fait il y a une alternance, le sommaire n'est jamais le même, il y a une alternance dans les programmes, pour que justement elles soient toutes plus ou moins représentées.
Mais et que ça, bah, paraît ça, et bah que ça, réalisable, c'est très, il y a tellement de religions.
Oui, mais c'est les grands groupes.
Parce que là, on a pas parlé de Saint Ignatius et de l'église des Max, là-dedans.
Les principales mouvances religieuses.
Voilà, les principales mouvances, parce que sinon, il y a les voix bouddhistes apparemment à chaque fois, islam, source de vie, présence protestante, Donc le jour du Seigneur, là, c'est carrément, oui, bon, les catholiques, avant
ça,
la,
c'est
messe, la messe c'est systématique. Il n'y a que la messe qui est systématique.
Oui, comme dit ton verre, c'est les grandes mouvances.
C'est bien sûr, et bien sûr. Et puis même, dans, justement, dans certaines émissions, sur ce début, en fait, ils vont parler de plein de choses, de plein de gens. Hein? Les gens qui ne peuvent plus se déplacer pour aller... Oui, c'est... Ah oui, j'avais pas pensé, effectivement. Peut-être que ceux qui regardent la messe, oui, c'est ceux qui peuvent plus se déplacer.
Les clubbeurs qui rentrent au petit matin...
Il y a un taux d'écoute de la
messe. Pour bien s'endormir.
Après l'after, les mecs qui sont pas sous exta, qui sont complètement claqués, qui peuvent pas continuer, ils rentrent et puis ils se font un petit coup de messe pour pardonner tous les péchés qu'ils ont fait pendant la nuit.
Sans rire, t'as un taux d'écoute de ce genre d'émission dans les maisons de retraite qui est pas mal, quoi.
Bah, je sais pas s'ils écoutent vraiment ou alors faut mettre fort. Enfin, bref, voilà quoi, j'ai regardé quand même.
Les grands-parents de Darty, ils regardent ça quand on vient les voir pour pas nous embêter à aller à la messe. Donc on regarde avec eux, c'est très sympa.
Ah, ça fait gentil écouter. Parce que ma grand-mère, elle m'emmenait à la messe.
Ouais, mais donc ça veut dire que ces émissions, en fait, c'est grâce à ces émissions que je vais pas à la messe. Donc moi, je trouve que c'est très bien, en fait. Il faut que ça existe, il faut que ça continue et je les encourage. Bravo.
Franchement, bravo. Le dimanche matin, moi, ils peuvent passer n'importe quelle émission. Déjà, j'ai pas la télé, donc je m'en fous. Mais en plus, le dimanche matin.
Bon, je peux vous faire un aveu.
Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Hein.
J'ai un magnétoscope.
C'est pas vrai, tu l'as regardé.
Et en plus, elle est enregistrée.
Tu l'as regardé le samedi soir.
Bah, j'ai regardé bout par bout, hein, parce que franchement, c'est...
Alors là, c'est un tir à l'exploit, parce que donc, je pensais que t'avais passé la matinée là-dessus.
Une croyance s'effondre.
Ah bah ouais.
Bon,
je suis tout déçu aussi.
Un tonnerre d'applaudissements quand
évidemment, elle regardait Téléfoot, elle pouvait pas voir ça en même temps.
Bon ben voilà, ben merci Béatrice. Donc maintenant, nous allons passer à quelqu'un d'autre.
Bien joué.
Donc Flo, tu vas nous parler...
C'était pas Numa qui commençait juste avant moi?
Bah non. Ah bah si, c'est Numa, semblait. Pardon.
Moi c'est comme on veut, ça me dérange
pas. C'est juste une histoire de biographie en fait, parce qu'il a la biographie et moi pas, voilà.
Ben non, parce qu'on s'est dit comme c'était le même, si on
aurait pu la faire en double. Vous êtes en train de la belle musique là. Oh,
ouais.
Pardon, on s'arrête.
Deux secondes. Donc, comme je le disais il y a un instant, Numa.
Oui.
À toi.
À moi. Donc, tout d'abord, je suis désolé de vous apprendre que Flo a jeté ma chronique. Enfin, tout du moins, les différents textes issus de mes fructueuses recherches sur la religion au sein de la littérature. Là, j'essaye de prendre ta diction, crème, c'est pas facile. C'est pourquoi. C'est pourquoi, pris par le sein dépourvu, il me fallut en trouver une de toute urgence, c'est-à-dire ce matin. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment elle qui me l'a soufflé, j'y avais pensé avant. Heureusement, Eureka, j'ai trouvé, donc j'ai relu récemment la trilogie Nicopole en 3 volumes. Donc je précise parce que j'ai aussi lu la trilogie en 5 volumes de Douglas Adams, le retard intergalactique, et aussi la trilogie en 2 volumes, Le sommeil du monstre, parce qu'on attend le 3e volume.
Alors
c'est compliqué les
trilogies. Numa, là honnêtement tu me la coupes parce que j'allais te recommander de lire les 5 volumes du guide du retard galactique.
Ben la trilogie en 5 volumes.
Et voilà exactement. Mais tu me la coupes. Vas-y. Je te laisse continuer.
Désolé de te l'avoir coupé.
D'ailleurs, merci.
Le rapport au thème.
Ben attends, 2 secondes. On y va, mais on y va pas vite, hein, rassure-toi. Donc, la trilogie Nicopole de Enki Bilal, donc, laquelle regroupe 3 tomes réalisés sur 12 ans. Donc, le premier c'était La foire aux immortels, le deuxième La femme piège, et le troisième, c'est mon préféré, ça s'appelle Froid Équateur, et c'est le mieux. Alors, donc, tout d'abord, je vais faire une rapide biographie de Enki Bilal, afin que pour ceux qui ne le connaissent pas, vous le connaissez ?
Bien sûr.
J'ai jamais couché avec lui. Mais...
Personne n'a couché avec lui, donc personne ne le connaît. Donc j'ai vu des photos, c'est un homme, ou alors une femme très bien travestie en homme. Donc, parce que je me méfie toujours des prénoms, parce que Enki, en fait, c'est un prénom masculin. Parce que c'est le diminutif de Ens. Ns.
Ouais. Et donc c'est un homme qui a un prénom masculin.
Ouais, en fait.
C'est troublant.
Non, parce qu'il y a des gens qui ont des prénoms étrangers, par exemple Elia Kazan.
Ils ont des prénoms étrangers, ça dépend.
Non mais Elia, c'est féminin ou masculin?
Masculin.
Bah ouais, mais c'est pas facile.
Parce qu'on le connaît.
Ben voilà, Sophia Loren.
Elle est très forte.
Loren.
Ouais. Sophia Loren, hein. Robert Mitchum.
Non, c'est vrai, c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile de savoir.
Robert Mitchum comme prénom, c'est pas facile à porter.
donc il est né le 7 octobre 19. Ouais, c'est pareil. Mais je vous ai dit que c'était pas facile.
On fait un débat sur les prénoms.
Enfin, Robert Mitchum quand même. Hein.
À tes souhaits.
À tes souhaits. Donc, il est né le 7 octobre 1951 à Belgrade, ex-Yougoslavie. Donc, comme c'était pas très bien rangé dans sa chambre, ben, en 1960, il arrive à Paris avec sa famille. Donc, c'est là où qu'il découvre le français, la bande dessinée et le cinéma. En 1971, il gagne un concours organisé par Mon Crayon.
Par quoi ?
Mon Crayon, c'est un pilote.
Ouais, d'accord.
Ouais, pilote, c'est les
crayons. Le journal pilote, ouais.
Ouais, ouais, non, mais d'accord, ouais, ouais. D'accord. Ouais.
L'année suivante, sa première histoire est publiée, ça s'appelle Le Bol Maudit. C'est là où il va rencontrer Christin, qui va travailler avec lui, qui va être son scénariste sur pas mal de BD. Ah, c'est pas la bonne page. Ah, si. Donc notamment la croisière des oubliés, les phalanges de l'ordre noir, partie de chasse, donc c'est là où il découvre ses sujets de prédilection, donc à savoir les sujets géopolitiques avec teinté de journalisme avec du fantastique. En 1980, donc c'est là où ça nous intéresse, donc Tout seul comme un grand, il publie La foire aux immortels. Et après encore d'autres BD avec Christin, il en fait plein. En 82, donc il fait le décor pour La vie est un roman, donc d'Alain Resnais. En 86, c'est Femme piège. En 87, il a le grand prix du festival de la bande dessinée d'Angoulême. En 93, il publie Froid Équateur. En 97, il tourne Tico Moon, donc le film avec Michel Piccoli dans le rôle phare. Il doit y avoir aussi Jean-Louis Trintignant, je crois. Et après j'ai oublié, mais bon, après faut demander à la spécialiste sur les films.
Non, faut pas lui demander.
Ah, bon.
Elle a pas le temps de regarder les anciens films.
Ah, elle a pas regardé. Bunker Palace Hotel, par contre, c'était avant, mais je crois même que j'ai raté la date. Hein. C'est pas grave. Et en 2004, donc cette année, il fait la réalisation de Immortel, son troisième film adapté justement de la trilogie Nicopol. C'est chiant les bios.
Ah non, c'est passionnant.
Ah ouais, bah oui, je le sens bien.
La preuve, la moitié s'est barrée.
J'ai hâte de l'entendre.
La moitié du public, oui.
Les mauvaises langues disent que j'ai failli m'endormir, mais c'est faux.
Donc, quel est le rapport entre la trilogie Nicopol et notre sujet ?
Oui.
Mais on se demande quand même.
Eh bien, tout simplement parce que en 2023, c'est-à-dire à l'époque où se passe l'histoire narrée, nous sommes dans une dictature. Paris est dans une dictature militaro-religieuse. Et dans militaro-religieuse, il y a...
Militaro
et religieuse.
Et religieuse, il y a les deux.
Et ouais, c'est bien foutu. Et donc, c'est-à-dire que le gouverneur qui s'appelle Louis-Ferdinand Choublanc, il y a peut-être un rapport avec Louis-Ferdinand Céline, mais je suis pas sûr. Mais ça sent comme ça. Donc c'est lui le gouverneur, un gros pourri qui mène les gens à la baguette avec une société de classe, avec un nouveau mur de Berlin, donc à Paris, c'est ce qui est pas très pratique.
Bah non. C'est un peu le bordel.
Donc qui sépare les classes aisées donc du centre de Paris du reste.
Il est où le mur exactement?
C'est en fait une espèce d'arrondissement, quoi. C'est comme si t'avais Paris et la banlieue, quoi.
Non, c'est le premier arrondissement, oui, et ça. Le reste.
Ouais, c'est le premier arrondissement et le deuxième, ça serait la banlieue,
c'est
pas, une espèce
c'est pas
de paquet.
Et les autres
non, là c'est plus grand quand même. Là c'est Paris et le reste.
Bah, c'est un peu comme ça, non?
Ouais, c'est assez rigolo.
Ouais, mais attends, le périph' il est vachement autour de ce qu'était Paris avant, maintenant.
Mais il y a Paris et la banlieue.
Voilà, mais il va se passer un drame en fin de compte, puisque donc le frère de ce gouverneur, qui s'appelle Théodule Ier, qui est plutôt catholique, hein, un petit problème avec sa foi, parce que sur la ville de Paris, il y a une pyramide avec à l'intérieur des dieux de l'ancienne Égypte. C'est un petit peu dommage parce que ça le fait un petit peu mal à son monothéisme. Donc il est tout emmerdé, le mec. Crèche, te sens sceptique.
Non, mais il est vachement emmerdé, je pense. Hein.
Non, ça me rappelle une BD que j'ai lue il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devait être ça, en fait.
Bravo.
Montre-lui la couverture de la BD, ça lui rappelle.
Non, elle est trop basse. Oh, je lui montrerai après. Mais à mon avis,
si
c'est fort possible.
La bande-annonce du film. peut-être.
Avec Horus immortel.
Je sais pas, je me souviens d'une espèce de d'envahisseur qui arrive à Paris.
Un mec avec une tête de faucon.
Ah non, ils prennent pas le contrôle, ils veulent juste récupérer du pétrole.
Récupérer du pétrole, ouais, c'est ça. Voilà. Ah oui, bah c'est bien ça. Ouais,
de l'essence, et puis donc le chou blanc va essayer de négocier son immortalité avec eux.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Mais ça marche pas.
Attends, il a fait tout un bouquin sur un mec qui a envie de récupérer de l'essence.
C'est fort probable aussi.
Une pyramide. Non, en fait, si tu veux, t'as plusieurs enjeux. T'as le mec qui veut devenir immortel, enfin le gouverneur chou blanc qui veut devenir immortel, et les dieux qui ont un problème de carburant avec leur pyramide.
Voilà. Flo, tu continues ou...
Non, tu continues. Ah, d'accord. Tu continues, non, c'est parce que Valérie décrochait, alors je l'ai remis sur la bonne voie.
Ah, d'accord. Bon, moi aussi, j'avais un petit peu décroché.
Franchement, un bouquin entier sur quelqu'un qui va à Elf pour aller à la pompe à essence, je sais pas. C'est un
peu... Non, là, c'est des dieux de l'ancienne Égypte qui sont tombés en panne d'essence.
Oui, c'est un peu plus original quand même.
Voilà, et ensuite, il y a Nicopole qui se vautre la gueule du ciel et qui est décongelé et qui est récupéré par Horus. Alors ça commence un petit peu à devenir un peu intéressant quand même.
C'est comme Austin Powers mais en plus vieux.
Ah oui, parce que c'est ça, parce que l'histoire c'est que Horus il fait son petit chemin tout seul lui, de son côté.
Mais c'est-à-dire que Horus il veut piquer la place du
Danubis. Le dieu chacal. En fait, si tu veux, le plan est clair et simple. Si Horus, par l'intermédiaire de Nicopole, arrive à prendre la direction de Paris, ils peuvent mettre la main sur les stocks de carburant de Paris. Donc, Horus ayant le carburant, il a le pouvoir, il dirige la pyramide. Et après, Nicopole, il fait ce qu'il veut avec les humains.
C'est un nouveau jeu de société, ça ?
En parlant de jeu de société, il joue Monopoly.
Ah !
Les dieux donc de l'ancienne Égypte jouent au Monopoly. Dans le film, ils jouent au Monopoly. Dans le livre, ils brûlent ce jeu perfide donné par les humains bas et vils et tout pas beau, caca.
Ouais,
tout ça, dégueulasse.
Pas bien.
Voilà. Donc ensuite, on pourrait parler un petit peu de la femme piège. Donc c'est le deuxième. Il faut pas oublier de dire que quand même le premier il est un scénario très touffu, très riche, avec un univers vraiment très fort et très prenant. Le deuxième va être un petit peu, le scénario est un petit peu moins plus fluide, moins complexe, on va dire, moins lourd à digérer, mais par contre aussi tout aussi intéressant. Parce que si on avait continué dans la même veine, on aurait peut-être pu avoir une indigestion, parce que donc c'est pour que le lecteur se repose. Et notamment à un moment donné, donc Bioscope, la fameuse femme aux cheveux bleus, va aller faire une étude, va aller faire un reportage journalistique c'est pour ça que j'ai amené le Libération du 3 février 2025.
Tu l'as déjà ?
Magnifique. Quelle belle pièce.
Ah non, en fait, pardon, c'est le jeudi 14 octobre 19... C'est le Libération du jeudi 14 octobre 1993. Libération, donc, a publié ça.
Donc, tu nous dis qu'en 2025, Libération existera toujours.
Ils ont reçu de 2025 un reportage.
En fait, Gilles Bioscope, elle a une petite machine, un espèce de téléscripteur...
Qui envoie dans le passé ses reportages.
Voilà. En fait, il est bloqué sur la date de 95. Hein. Donc, elle n'arrive pas à envoyer ses reportages au bon endroit. Quoi. C'est donc, à tout hasard, elle envoie en 95.
En bref, il n'a pas le choix dans la date. Quoi.
Il faut bien savoir que le logo de Libération est en vert et pas en rouge. Ce qui est quand même important à signaler à nos auditeurs qui ne voient pas.
Qui ne voient pas.
Ils ne boient pas non plus.
Non, bah, parce que tout simplement, donc elle est à Berlin et il y a un truc très rigolo qui se passe à Berlin. Ça s'appelle Lierkrieg. Pardonnez l'accent.
Oh, vas-y.
Donc là, je vais vous lire le texte parce que sinon on comprend pas. Donc là, c'est en parfaite adéquation avec le thème d'aujourd'hui. Donc ça commence en général très tôt le matin par la bande son. Donc tir de mortiers, de roquettes, de mitrailleuses lourdes et même parfois lâcher de bombes. À travers le vitrage blindé du Mauerpalast, on a, si on veut, l'image première loge garantie. Irkrieg, la guerre de l'œuf, fait rage. Le jeu, aussi simpliste que ridicule, consiste pour la temporaire coalition des deux familles, l'une chrétienne maronite, la famille Fegalim, et l'autre chiite imamite, la famille Sadale, à nettoyer, purifier, en un mot dégommer tous les œufs de mancar qui poussent, prolifèrent et éclosent dans le lieu le plus sacré qui soit, celui de leur culte. Ce lieu, la gare de Kreuzberg, en fait, construite à cheval sur le mur en 1999, abandonnée 10 ans plus tard et progressivement détournée en église pour une moitié et en mosquée pour l'autre, est en effet régulièrement investie par ces œufs venus de Mankar, plutôt inoffensifs de nature, mais dont la présence malodorante et extraterrestre dérange le fanatisme obstiné des deux clans. En quelque...
La tête de Béa, c'est impressionnant.
J'ai décroché.
C'est autre chose que la télé. Hein. En quelques semaines d'âpre pilonnage, donc tous les œufs sont détruits jusqu'à la prochaine saison. Donc commence alors le pénible nettoyage du bâtiment sacré, littéralement ennomelettisé, dégueulasse. Lorsque tout brille à nouveau, clinquant impec, les familles reprennent leur autonomie, leur rite, puis leur querelle, qui redéclenche le véritable conflit meurtrier et sale. Le leur, celui qu'ils font durer de père en fils et de mère en fille depuis le dernier quart du XXe siècle, un certain jour d'avril 1975, où Beyrouth et tout le Proche-Orient ont commencé à plonger dans un chaos sans fin. Voilà, car en fait, c'est une histoire de religion à la con que nos deux familles continuent d'écrire à leur petite échelle, avec leurs petits moyens, ici à Berlin, loin de leurs attaches et avec la même imbécile obstination.
En fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, Bilal, dans ses BD, il règle beaucoup de comptes politiques et religieux.
Bah, je crois même qu'il en a un petit peu...
Mais vu d'où il vient, il a quelque part, c'est un peu légitime aussi, on peut dire.
Ah, là, je vous ai meulé, là. Bon,
c'est toujours légitime.
Mais n'empêche que moi, ça me fait du bien, moi.
Pourquoi c'était ta conclusion, là, non ?
Ah non, bah non, parce qu'après, il y a le troisième...
Je te montre le panneau qui ne reste plus que deux minutes.
Bon, c'est pas grave.
Tu peux déborder un petit peu. Hein.
Oui, c'est possible.
Fais-toi plaisir.
Je voudrais dire que moi, ça m'arrange parce qu'en fait, j'ai une chronique à la fin et en fait, du coup, je vais pouvoir faire une chronique de 1 minute 30. Impeccable.
Ah bah là, vu comme c'est parti, tu pourrais même faire une chronique de moins 5 minutes à peu près.
Ensuite, donc, mis à part toujours le même univers, on a le troisième volet. C'est celui que je préfère parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les trois BD ont été publiés sur 12 ans. Et donc forcément, le travail du dessin a beaucoup évolué entre le premier tome et le dernier. Et le dernier, c'est vraiment le plus abouti au niveau du dessin. Et on retrouve un scénario aussi fouillé que dans le premier, avec la venue du frère... de Nicopole, de son fils, du Nicopole qui a le même âge que Nicopole, puisque Nicopole s'est fait décongeler au même âge que son fils qui a évolué lui. Et j'étais clair, pas trop peut-être.
Si complètement, moi j'ai tout compris.
Si, grave clair.
Donc
clair.
Voilà. Donc.
Et ce qu'il faudra faire attention, c'est de pas recongeler un produit décongelé.
Pourtant, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ils n'y arriveront pas. Ils vont se gourer.
Elle l'avait bien dit, hein, pourtant.
Ben oui.
C'est ça, il y a eu faute erreur sur la congélation après.
Oui, il y a eu erreur sur la congélation, mais par contre, pour comprendre ça, après, il faut lire les trois, ce que je vous invite fortement, parce que je pense que c'est une des, on va dire, des cinq meilleures BD jamais publiées. La foire aux immortels, le premier. Après, mais moi, je préfère le dernier.
Mais c'est le premier le meilleur.
Voilà.
T'es pas simple non plus, toi.
Ben non.
Chacun ses sales goûts. Hein.
Bon, on va lire les trois, là.
Ben, c'est un peu mieux parce que sinon,
tu pourras les laisser là, je les lirai, je te rendrai les autres que j'ai à toi là d'ailleurs.
Ah, ben moi je m'en fous, c'est là tu peux les garder.
Excusez-nous, chers auditeurs, on fait un peu notre petite sauce, mais vas-y, reprends.
En fait, ce sont celles de Flo. je crois. Et ensuite, que comme tout le monde me le réclame, donc après avoir dit évidemment qu'il fallait absolument lire.
Un poème ?
Non, le haïku. Un haïku aujourd'hui.
Le poème ?
Ah oui, un haïku. Ah oui, alors ça j'attends ça, dis donc avec impatience.
Un silence absolu. Le monde s'arrête.
Qui c'est qui respire comme une locomotive là ?
C'est Numa qui souffle dans le micro.
Et lui il a le droit.
Croa-an, croa-ante. Mon verre. Amen. Et que ça saute!
Ah, je suis bluffé.
Vous imaginez bien l'émotion qui règne ici.
Heureusement qu'on avait des fritelles quand même. Hein.
C'est... c'est incroyable, infernal, la Vare d'Arty qui reste un petit peu hermétique. Pas à tout, hein, évidemment.
J'ai vachement travaillé au niveau de la japonaiserie. Mais
non, mais c'était... C'est incroyable.
C'est impressionnant.
Ça laisse sans voix.
Ben,
D'ailleurs, si t'aimes les koans, il y a un livre à lire, c'est Gödel et Scherbak.
Une petite réaction du public, peut-être. Le public veut réagir.
Le public veut réagir. Il est sans voix, le public.
Le public le plus jeune ne réagit pas beaucoup. Il est assommé par.
Le poème.
C'est pas... le public le moins jeune veut-il réagir, Ariane?
Mais elle a la bouche pleine de fritelles, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise?
Non. Ça me laisse sans voix.
Bah, elle peut dire déjà d'abord bonjour. Non, tu veux pas? Bon, bah tant pis. Donc, bah écoute, je crois qu'on va faire encore un tonnerre d'atomissement. D'applaudissements.
Il y a pas à dire, hein, le poème, c'est
amelé,
là.
Ah bah là, oui, on reste sans voix, il y a pas d'autre mot.
Ah, j'en ai fait des pires.
Oui.
Le
oui,
dernier,
oui,
il était oui. Pire. Je m'en souviens encore. Mais...
Tu restes aussi sur une pente linéaire. Je ne veux pas donner si c'est positif ou négatif, mais aux auditeurs de juger. Merci beaucoup, Numa. Et bien maintenant, nous allons passer à Flo, qui va nous parler d'un film, d'un auteur dont on a entendu parler il n'y a pas très longtemps.
Oui, non, c'est vrai, c'est un auteur, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps, alors ça aurait pu être un film aussi dont on a beaucoup parlé, La Passion du Christ. Non.
C'est pas celui-là.
Non, ouais. c'est pas celui-là. Alors, j'ai croisé des gens qui... Enfin, ma maman, par exemple, m'a parlé de ce film. Elle m'a dit que c'était un tissu d'horreur, de steak, etc., etc. Et en fait, elle était très convaincante, donc je ne suis pas allée le voir, donc je ne vous en parlerai pas. En revanche, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que oui, non, c'était vraiment comme ça que ça s'était passé. C'était bien de l'avoir mis en image, donc ça m'a un peu affolée. Je vais revoir mes fréquentations. Je voulais vous parler aussi d'un autre film qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Voyage de James à Jérusalem. Un jeune petit Africain, je ne sais pas où, qui part pour devenir le pasteur de son pays et qui arrive en terre promise et qui croit qu'il va pouvoir devenir pasteur. Et en fait, sur place, on lui dit que non, on connaît déjà le coup de la foi, de la religion, machin, qu'il est là en fait pour travailler comme ouvrier en clandestin, etc., etc. Et en fait, il fait tout sauf pasteur. Et c'était très drôle, très bien fait et tout. Ça a été fait par un Israélien et il y avait qu'un Israélien pour faire un film comme ça. Mais c'est dommage parce que l'émission a été tellement reportée que le film est plus trop d'actualité, on le voit plus tellement sur les écrans. Alors, du coup, je vais vous parler d'Immortel. Et en fait, c'est pas gênant.
Je voudrais faire un petit commentaire. L'émission n'a absolument pas été reportée. La date était prévue depuis la dernière fois.
L'heure
mais aussi. Certaines personnes l'avaient un petit peu oublié.
Ah non, moi j'étais prête à faire l'émission largement avant, il y a quelques semaines.
Avant, pas la date. Vas-y, exprime-toi. Avant quoi?
Mais il y a un paquet de semaines, en fait, j'étais prête à faire l'émission et lui-même m'a dit, mais non, c'est pas maintenant, c'est dans un mois.
Ah. Voilà, nous ne sommes pas là pour polémiquer.
Moi, je propose que le thème de la prochaine émission soit
déjà.
Les reports d'émission.
Le thème, je pense que ce serait mieux.
Laissons parler Flo, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant de petites histoires. Donc, vas-y, Flo.
En fait, du coup, je vais vous parler du film Immortel, le film donc de Bilal, le troisième film de Bilal adapté de la trilogie Nicopole dont on vient de vous parler. Et en fait, ça me fait d'autant plus plaisir de vous parler de ce film, parce que j'en suis quand même à mon troisième visionnement. Ariane ne s'en est toujours pas remise. Je l'ai vu une fois en VO et deux fois en VF, il faut reconnaître.
Il faut voir la VF.
Ouais. Enfin, c'est une question de point de vue après. Alors en fait, il faut.
Ah bon, c'est mieux.
Bah, surtout si on comprend pas l'étranger, quoi.
C'est de l'étranger sous-titré.
Il y a du Baudelaire dedans et Baudelaire en anglais, bof.
Oui, mais ça se défend. Enfin, les deux se défendent, quoi, en fait. Donc, je vais vous présenter le film. En fait, c'est une très très libre adaptation de la trilogie Nicopole. La trilogie Nicopole, en fait, c'est l'histoire donc de cette pyramide qui arrive sur Paris pour des histoires de carburant, mais bon, hein, d'un type qui revient 30 ans plus tard sur Paris, qui se décongèle et qui découvre que sa femme est morte
qu'elle a mis au monde un fils juste après son départ, que son ce fils a maintenant 30 ans, ils ont le même âge, etc., etc., etc.
Mais c'est presque la même histoire que la BD de Numa.
Non. Mais c'est la, je vous restitue la BD en vitesse là, que
restitue la BD parce que c'est voilà. pas la même histoire.
C'est pas la même
c'est
histoire du tout.
C'est le même univers,
en fait.
Les mêmes personnages, le... mais l'histoire variée.
Voilà, ce
on reprend
héros.
La base, mais on en fait autre chose.
Il n'a pas eu de soucis avec l'auteur d'origine.
Ah oh ben ça va, il s'est pas trop tapé sur lui-même.
On sait jamais, des fois, ces types-là. Hein.
Oui, non, ça a l'air d'aller assez bien dans sa tête, en fait. Donc, en fait, ce héros rencontre la fameuse femme aux cheveux bleus.
Linda Hardy.
Non, Gilles Bioscope, dans la BD.
Non,
oui,
mais
Linda
dans
Hardy
film.
Dans le film,
c'est
oui.
Ça.
Il la rencontre avec son dieu, elle tombe enceinte, et ils se séparent au niveau du froid d'équateur, etc. Enfin bon, là, je vous laisserai redécouvrir la BD pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, si vous allez voir le film, il faut savoir que c'est une très très libre adaptation. En fait, c'est même une déstructuration de l'histoire. Bilal, quand il a fait son film, a pas voulu remettre le nez dans la BD. Il a voulu faire pas un trait dessus exactement. En fait, il a confié à l'écrivain Serge Lehmann, qui est un anti-mondialiste. Ça va te plaire.
J'ai rien dit, moi. Le Monde, c'est très bien, je suis pas contre. Hein.
C'est un anti-mondialiste, ancien chroniqueur de l'Humanité. Et en fait, il lui a confié parce qu'il a une grande culture de la science-fiction. Et donc, Serge Lehmann a écrit un premier script. Et après, Bilal a fait le scénario d'Immortel. Alors, en fait, il a tenu à ne conserver que quelques éléments de la BD. Il a surtout voulu aussi trouver des personnages. Comme il avait la possibilité de jouer avec la 3D, etc., qu'on lui donnait plus de sous pour ses premiers films, il s'est dit, je vais y aller bien, mais sans faire quelque chose qui ressemble à Matrix. En fait, faire quelque chose abordable pour lui et pas quelque chose sur lequel les gens voudraient surenchérir. Donc, en fait, pour ce qui est de la 3D, il a pensé aux dieux. Donc, on retrouve le fameux Horus. De tous les dieux de la BD, il ne reste que Anubis et Bastet, ce sont de toute façon les plus importants dans la BD. On retrouve Nicopole, bien sûr, aussi indispensable. On retrouve Gilles, la femme bleue, et on retrouve John, un ami de Gilles. Alors ils vont tous...
avec beaucoup plus d'importance dans le
ouais.
film.
En fait, ils gardent toutes leurs spécificités. En fait, Nicopole, enfin, le fils de Nicopole d'ailleurs a disparu, mais Nicopole revient toujours quelques années plus tard. Décongelé, il perd sa jambe.
Pour des raisons différentes.
Voilà. Il perd une jambe. Non, mais c'est un truc bête et con, si tu veux. C'est qu'il tombe de très haut dans le ciel. Il se cogne.
Et ça fait mal.
Et la jambe congelée, en fait, la jambe congelée se casse, paf. Truc bête et con. Comment perdre une jambe?
C'est ballot comme accident.
Ouais, c'est très con, ouais.
C'était pas écrit sur la notice qu'il fallait décongeler complètement avant utilisation?
Le mec, il est dégelé. Comment veux-tu qu'il lise la notice?
Oui, c'était pas gagné pour lui, hein. Bon, alors Gilles, en fait, elle conserve ses cheveux bleus, mais contrairement à la BD où c'est une mutante, là c'est carrément une extraterrestre, hein, qui arrive d'on ne sait pas où, enfin elle-même ne le sait pas d'ailleurs. Et John, qui a toujours peur de la lumière, qui est en fait un alphératien, et qui est un passeur. En fait, il est là pour aider Gilles à passer du statut d'extraterrestre à femme humaine. Donc en fait, il a bien bougé un peu le scénario de la BD.
Et l'inverse, c'est possible de passer de femme humaine à extraterrestre?
Ouais, mais ça tu le saurais pas en fait. T'arriverais en fait.
En vieillissant, comme... ça arrive souvent.
C'est comme Bravo. Si t'étais pris de la Terre et envoyé, je ne sais pas, sur une planète X ou Y, et tu saurais même plus que t'es humain à la base et tu transformerais en cet extraterrestre, enfin extraterrestre de la planète locale.
Oula, je vais reprendre des frites alors.
Reprends des frites, ouais. Voilà, alors là, donc on passe de la destinée absurde de la famille Nicopole à une histoire d'amour à trois. Enfin, c'est maintenant, cette fois-ci, c'est vraiment plus que l'histoire d'amour à trois entre l'humain Nicopole, l'extraterrestre Gilles et le dieu Horus. Alors, pour être sûr de bien tirer un trait sur sa BD aussi, le Nicopole du film ne ressemble en rien à celui de la BD. Il ressemblerait même un petit peu à Bilal.
C'est-à-dire qu'il bouge?
Non, il est beau.
Non, ils n'ont pas la
même
tête.
Et quand il parle, ça fait pas de bulle au-dessus.
Oui, voilà. Non, en fait, ils n'ont pas du tout la même tête. Donc, Gilles, je vous l'ai dit, est devenu extraterrestre. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a une évolution. On voit toute l'évolution de Gilles quand elle devient humaine. Ça commence par ses cheveux qui ressemblent à une espèce de casque bleu ciel, comme un bonnet de bain un peu bizarre. Et petit à petit, il y a les cheveux qui se décollent et tout. C'est très joli. Et au lieu de se passer en 2023, l'histoire se passe en 2095. Comme ça, il était sûr d'un futur vraiment très 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 loin.
Bah, s'il faut, on sera tous morts d'ici là. Mmh, c'est vachement loin.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est contrairement à beaucoup de films de science-fiction, en fait, ils cherchent pas du tout technologiquement possible. En fait, l'idée lui plaît, alors il fait. Donc la pyramide, en fait, on se fout de la manière de déplacement de la pyramide. Il n'y a plus de problème de carburant, comme ça, là, excite l'histoire des dieux et du carburant. Là, en plus, Horus ne cherche plus à prendre le pouvoir sur la pyramide. Horus a fait sédition au sein de la pyramide et il est condamné à perdre son immortalité. Et en fait, c'est pour ça qu'il revient sur Terre. Il a 7 jours pour profiter, enfin, de ses derniers instants en tant que dieu. Et lui, il va chercher à les mettre, à utiliser ce temps-là pour se reproduire, en fait, pour prolonger son immortalité en trouvant une femme qui puisse porter un enfant de lui, à savoir cette fameuse jeune extraterrestre.
Un enfant de Dieu.
Et hein.
Ah ouais, non, mais j'allais demander dans quel bar il était allé, tout ça, parce que je me dis qu'un mec comme ça, il doit être hyper informé.
Ils
vois,
sont allés dans des bars. Ouais.
S'il a une semaine, tu vois, il doit vraiment savoir lesquels ils sont bien.
Oui, mais comme tu vois, c'est un dieu. D'abord, il sent des choses que toi, tu ne sens pas.
Spirit of Nicopol.
Ouais. Justement, j'aurais bien aimé profiter de son expérience, tu vois, parce que moi, j'ai aucune chance de les trouver, ça.
Et alors, ce qui est sympa aussi, plus de la pyramide qui plane comme ça, là, on ne sait trop comment, et on s'en fout d'ailleurs. Les voitures, en fait, quand on les voit, contrairement aux films de science-fiction, on voit toutes les voitures qui volent, machin, etc. Lui, il les a collées sur des rails. Il y a des espèces de rails, genre rails de tramway suspendus dans le ciel. Me dis pas que j'ai plus que 2 minutes, c'est pas possible.
J'ai rien dit encore.
Bon, d'accord. Il y a ces espèces de rails qui sont suspendus dans le ciel et les voitures sont collées
ça,
là-bas.
Ça faisait quand même penser un peu au cinquième élément.
Oui,
ça.
Mais justement, c'est ça vient dans l'autre sens en fait. C'est Bilal qui a écrit.
C'est le cinquième élément qui s'en est inspiré.
Voilà. Ouais. Et lui reprend ce qui lui appartient.
Et ensuite, c'est Besson qui a fait le procès à SFR pour la fille aux cheveux rouges.
De toute façon, certaines images qu'on connaît dans la science-fiction, finalement, ils ont tous les mêmes idées. Hein. C'est vrai que se projette dans un avenir très 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 lointain.
Mais tout ce que je voulais dire, ce qui est quand même assez rigolo, c'est Luc Besson qui porte plainte.
Oui, mais bon, c'est Luc Besson.
Bah oui, pour un truc qu'il a déjà repiqué, quoi. Ouais, donc ouais, bravo, félicitations.
Non, et puis en plus, pour en revenir à l'histoire des voitures, si tu veux, les voitures qui volent, au lieu de voler comme ça bêtement et tout, elles sont collées à des rails dans le ciel,
en fait.
Magnétiques,
en fait.
C'est tellement bête, une voiture qui vole tout seul.
Ah, mais non, mais moi j'ai
trouvé ça vachement
pratique, non?
Si, elles sont, en fait, elles volent en ce sens où elles sont suspendues, les roues, il n'y a pas de roues qui touchent le sol, quoi. Elles sont collées par
les roues, elles sont au-dessus.
Donc t'es en train de me dire que le métro.
Toi.
Comme le métro japonais.
Le métro japonais, il vole, en fait, parce qu'il n'a pas de roues,
il est collé au plafond.
Non, mais parce qu'il y a des trucs qui volent littéralement, en fait, c'est des coussins d'air et tout, donc ils touchent aucune partie de la Terre. Je peux pas dire.
T'as des trains magnétiques qui passent.
Ouais. Et toi, Flo, t'as pas de roues qui touchent le sol, c'est pas pour ça que tu voles.
Ouais, mais bon, moi c'est pas pareil, je suis pas collé à un rail par la tête en fait.
bon d'accord.
Au fait, n'empêche que son histoire de rail, et moi j'ai trouvé ça vachement joli. Et puis dans les films de science-fiction, de voir les voitures qui volent comme ça dans les airs, ça m'a toujours paru un petit peu bordel, un petit peu limite quand on voit la circulation dans Paris. Et donc je trouvais que là, pour le coup, les rails, bah, c'est bien. Ça permet au moins de donner une espèce, enfin, de régler l'encombrement du ciel.
Les Parisiens de 2095 ou je sais pas quoi, là, ils vont se marrer quand ils vont voir le film. Parce que les voitures, elles voleront toujours pas. Et ce sera toujours le merdier dans Paris.
Ils en rêveront.
Mais déjà, là, il a repoussé, hein, parce que la BD, c'était 2023.
Oui, justement,
et là, le film, c'est 2095.
Ouais, de toute façon, en fait, il y aura des. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'en 2100, soit il y aura plus de voitures, soit il y aura des méga super bouchons. Et il sera absolument pas question de voler nulle part.
Mais c'est dur, plus qu'ils.
Ils ont toujours prévu que les voitures allaient voler, alors qu'ils n'avaient pas prévu qu'elles allaient être volées.
Elles voleront, mais elles feront la queue, quoi.
Non, puis ce qui est joli, si tu veux, quand tu vois le film, c'est que dans ces voitures de 2095, il y en a qui ont vraiment l'air sorties tout droit des années 60-70, quoi.
C'est un truc, la mode en général, c'est par période. Moi j'avais été en Russie, j'avais vu des gens qui étaient hyper dégoûtés, notamment une dame qui était vraiment verte parce qu'elle avait jeté ses godasses à Boukharé.
Ah bah ça change, en fait, des femmes bleues.
Quelques années avant, mais elle les avait gardées vraiment pendant 25-30 ans dans un placard en se disant mais ça vaut rien, c'est de la merde. Elle les a finalement jetées et 2 ans plus tard, c'était la mode.
Les boules.
Ah oui.
Ah, les boules.
C'est ballot.
Ah ouais. Alors, autre chose qui diffère avec la BD, en fait, c'est que l'histoire se passe à New York et pas à Paris, en fait. Alors c'est pour une simple question de verticalité tout bêtement, parce qu'il avait besoin d'une ville verticale, il trouvait ça joli, et puis c'est vrai que par rapport aux voitures qui volent dans les airs et tout, c'est plus sympa.
Parce que oui, il y a un gros travail de photo dans le film.
L'image est très, très bien.
On voit bien dans la bande-annonce, ça a l'air très joli.
C'est vrai qu'il y a une grosse image de photo, d'ailleurs ils en ont fait 24 par seconde quand même.
C'est énorme.
Et il y a aussi une question un peu politique aussi, il y a toujours une petite question politique, et là ça lui permet d'attaquer Bush en fait, parce qu'il y a un grave problème d'eugénisme. La New York est une dictature, une dictature génétique. Et donc avec Bush et ses idées, ça, il trouvait que ça collait assez bien. Et on a en fait pour Paris un petit clin d'œil à la fin du film. La fin du film se passe à Paris. Et Bilal était à une des projections à laquelle mon frère a assisté, et il y a un spectateur qui lui a demandé mais pourquoi Paris était plus joli que New York, et là Bilal a une réponse géniale, il l'a regardé et le spectateur il lui a fait mais ça vous gêne? Enfin moi j'ai trouvé très sympa.
Ah bah il y en a une qui réagit, hein.
Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui réagit à ce que tu dis.
Donc voilà, on retrouve aussi la position intermondialiste avec le Spirit of Nikopol, parce que Nikopol a été envoyé en congélation pour des idées qui marchaient pas tellement avec le pouvoir en place.
Le Spirit of Nikopol, c'est pas un truc qui se boit.
Ah non, c'est pas un truc qui se boit. En fait, c'est des petits panneaux lumineux qui apparaissent partout.
Ils ont repris dans la bande dessinée Nikopol est déserteur, et dans le film Nikopol a été le meneur d'un mouvement contre le gouvernement, les organisations, etc.
Un trafic de gènes et autres choses.
Et le Spirit of Nikopol, en fin de compte, c'est des gens qui reprennent une idée révolutionnaire au nom de l'esprit de Nikopol, qui évidemment lui n'a plus rien à foutre dans l'histoire, mais c'est pas grave, on reprend, c'est un petit peu comme on fait par exemple Che Guevara, par exemple, on reprend l'image et tout.
Tu t'abrèges parce que on me fait signe qu'il faut que j'accélère.
Oui, c'est ton temps.
Ah ouais, c'est mon temps que tu manges.
C'est pas le mien.
Voilà, alors le film aussi a cette particularité.
C'est salaud, hein, ça. Oui, mais c'est les gens pour leur faire perdre du temps.
Le film a cette particularité qui mélange le 3D et le réel, en fait. Tous les acteurs à la base sont vrais, sauf que certains ont été complètement numérisés et retransformés en autres acteurs, ce qui donne une fluidité, en fait. Il a su faire l'équilibre entre le réel et la 3D en diminuant un peu, enfin en enlevant un peu de réel au réel et en rendant vraisemblable la 3 dimensions. Et alors ça fait un tout très très poétique avec des humains, des mutants, enfin bon, ça marche, c'est cohérent. Il se pose aussi après le problème du français et de l'anglais. En fait, le film a été fait en anglais. Pour une question commerciale, en fait, pour l'exporter, c'était plus facile de le faire en anglais. Alors, en anglais, si vous allez le voir en anglais, c'est Thomas Pollard qui tient le rôle d'Horus et qui parle avec un anglais très shakespearien. Et si vous allez le voir en français, c'est Féodor Atkin. Et alors là, pour le coup, le ton shakespearien, le ton théâtral, ça marchait pas du tout, ça faisait ridicule, crétin, etc. Donc, il a pris un autre ton. Et il parle avec un ton, enfin il a donné aux dieux un ton plus naturel, plus réaliste et plus cynique. Et en fait, ça transforme complètement les rapports entre Horus et Nikopol. En fait, Nikopol apparaît plus fragile et on sent plus le lien qui se crée entre le dieu et l'humain. Et ce qui est beau, surtout quand on voit un peu ce que pense le dieu au départ des humains, quoi. Voilà. Et puis en plus, petite chose, Nikopol passe son temps à réciter Baudelaire, et quand même, c'est plus beau d'entendre Baudelaire en français. Voilà, alors tout ça, c'est, comme vous l'avez compris, c'est très très poète. Ça, les images,
c'est
les images
poétique.
Sont
c'est très poète.
Très poétique. L'image est très belle, la musique est très belle, les propos sont pas mal, c'est très beau, c'est tout formidable. Tout en gardant le petit côté subversif de Baudelaire. Et donc là, je vais vous citer des propos de Bilal pour en guise de conclusion. Voilà, alors je souhaitais absolument que Nikopol, dans sa phase de décongélation, arrive avec les vers de Baudelaire à la bouche. Il dit, il n'a pas des asticots qui sortent de la bouche. Et
c'est l'avenir.
Baudelaire non plus, on n'en a plus.
Et à la fin du film, parler d'une nouvelle histoire d'amour qui recommence avec les vers du poison, le poème de Baudelaire. Voilà, c'était assez vénéneux, trouve-t-il. Et ajouté à la violence du faucon qui trucide une colombe, oui, le fils d'Horus, donc à la fin du film, trucide une colombe, ce qui a
fait
hurler les gens.
C'est vachement bien, c'est super malin de raconter la dernière image du film.
J'y peux rien du tout, c'est Bilal qui le dit lui-même.
Ouais, ah bon, alors ça l'a dit.
Moi, je vis pas avec elle, je me permets.
permettre. Mais quelle conne.
Merci, José. Pas.
Cela dit,
je t'en prie, ça me fait plaisir.
Cela dit, à traiter un sujet qui se ressemble, mais dont la seule chose qui diffère, c'est l'histoire, c'était fatal.
Oui. Donc c'était ta conclusion?
Non, j'ai pas fini. Oui, moi c'est pas la même fin. J'ai pas fini de lire la fin. Bon sang.
Je sais bien.
Alors je reprends.
Tu ne l'as pas raconté.
Non, reprends pas. Lis juste la fin.
Ajouté à la violence du faucon qui trucide une colombe sur une musique en parfaite contradiction, Vénus et son Beautiful Day, ce qui est très joli aussi là. Voilà, une fin un peu perverse comme le sont les poèmes de Baudelaire. Alors c'est pour ça en fait je vous dis, voyez les deux films, c'est deux œuvres différentes et c'est vachement beau.
Voilà. Bah d'accord, écoute,
un très
merci.
Grand poème.
Magnifique, un tonnerre d'applaudissements pour Flo.
Est-ce que cette fois j'ai convaincu quelqu'un d'aller voir un film?
Bah moi j'ai vu la bande-annonce qui m'a un peu plus convaincu.
En fait je comptais y aller, alors c'est un peu triché. Hein.
Alors moi je vais être hyper pragmatique et petit et bas et mesquin. En fait en ce moment c'est pas pratique pour moi d'aller voir des films, alors je vais plutôt lire la BD.
Donc Flo, peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Une question, dernier moment. On va baisser un peu la musique pour qu'on puisse entendre les réponses et tout.
Tu disais,
je crois que tu demandais si tu avais réussi à convaincre des gens d'aller voir le film.
Je suis très contente d'avoir trouvé un film que pour une fois des gens vont aller voir.
Ah, t'as changé de méthode.
Et certaines personnes avaient l'intention de raconter des trucs,
oui,
mais on n'a pas bien entendu.
Non, mais ce que je disais, c'est que en fait, pour moi en ce moment, c'est pas pratique d'aller voir des films pour des problèmes bassement matériels.
Je me ferais un plaisir de te prêter le DVD quand je me le serais offert.
Non, faut que tu gardes ma fille, c'est différent en fait.
Ariane. Mais justement, ouais, Ariane super, le gardera entend, volontiers.
Ah, c'était dans le placement matériel aussi.
Donc, encore merci Flo. Maintenant, nous allons passer à Darty, qui apparemment a plein de choses à dire.
Ah oui, oui.
Eh ben, à toi, vas-y. Oh oui, oh oui.
Bon, alors, donc je vais vous parler de Saint Ignatius et de l'église des Max. Mais avant, je vais faire un petit aparté, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de dieux égyptiens, là. Et je vais vous parler d'un dieu qui, en général, on parle pas beaucoup en fait. Hein, c'est Bès, qui est un dieu égyptien et qui était grosso modo dieu tout ce qui était musique, fête, tout ça, voyez, l'amour, machin, bidule, enfin truc, simple, enfin le truc qu'on aime bien quoi.
Qui a un rôle important dans la BD en fait. On le retrouve pas dans le film, mais il est dans la BD.
Il est dans la BD. Ouais.
C'est lui qui crame le Monopoly.
Et donc Bès en fait a été son problème en fait, c'est qu'il a été alors je sais pas par exactement qui, j'avais fait des super recherches hyper précises mais j'ai un petit peu oublié leur contenu, mais en fait il a été après coup en fait personnifié comme le mal, le vilain, le méchant, le vous voyez quelqu'un.
C'est vrai, dans la BD il est pas beau
parce que la baisse c'est pas bien.
Exactement, c'est un dieu qui est très très vilain en fait, et qui à la fin a incarné vraiment le mal en fait et tout ce qu'il ne faut pas faire, etc. Alors qu'en fait finalement c'était juste.
Et dans la BD sympa. C'est lui le salaud qui brûle le Monopoly.
Voilà, tout à fait, et ça représente bien. Alors qu'en fait c'est le dieu de la musique machin. Alors, petite info qui est absolument pas, c'est quelque chose de pas confidentiel mais que vous pourriez savoir, c'est que cette année le serveur de la fête de la musique, le nom de la machine s'appelle Bess. Voilà, enfin c'est juste un petit aparté. Moi ça m'a fait beaucoup rire de l'appeler comme ça.
Comment tu sais ça?
Bah c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Je trouve
parce
ça drôle.
Que tu travailles dans un endroit où tu peux te permettre de choisir le nom du serveur.
Bah c'est, moi j'ai trouvé qu'un nom de dieu égyptien c'était bien quand même.
Ouais, mais tu réponds pas à ma question là.
Non mais
fais pas ton homme politique malgré le fait que tu travailles pour le ministère public.
Bon alors donc voilà, donc
je n'insiste pas.
Vous regarderez, c'est très rigolo. Moi ça m'a beaucoup amusé et voilà.
Mais souvent les serveurs ils ont des noms de dieux de toute façon.
Ouais, non mais en fait en général il y a des thèmes.
Moi qui vais souvent au restaurant, souvent il s'appelle Gaston. Hein.
Non mais en fait par contre c'est une tradition dans le monde Unix en fait d'avoir des noms de serveurs en fait avec un thème. Par exemple je sais que ça doit être à l'UNS à Cachan en fait, ils avaient à une époque, je crois bien que c'est là-bas, ils avaient à une époque des noms de bière en fait. Donc t'avais une machine qui s'appelait Chimay, une machine qui s'appelait Greenbergen, enfin tu vois un truc sympa quoi.
Ah ouais, ça c'est super.
Et l'idée c'est d'avoir un thème en fait, un thème général, et en fait tu trouves des tas de noms autour de ce thème là.
À mon boulot, on a fait une saison sur les îles, donc il y avait Tahiti, La Réunion, et à peu près on avait fait sur le vin aussi.
Voilà.
Pomerol, Margot.
Ah, moi j'aimerais bien aussi, mais ce serait plutôt
Camembert, des choses.
Enfin, on va essayer de recadrer un petit peu dans le sujet.
Oui, vas-y, recadre.
Parce que en fait, je suis quand même extrêmement content d'avoir eu un pur sujet, parce que c'est un truc.
Cassoulet.
Honnêtement, Saint-Ignatius, c'est un truc. Je me disais depuis longtemps que je pouvais faire un truc dessus, parce que c'est quelque chose d'assez remarquable. Et il n'y a pas beaucoup de saints aussi particuliers que je connais. Parce qu'il faut bien voir, en fait, que le logiciel libre, en fait, c'est quelque chose. Alors, je sais pas, par exemple, si on prend le nombre de serveurs utilisés, enfin, le nombre de personnes qui peuvent utiliser des logiciels libres, parmi les informaticiens, ça doit représenter quelques pourcents au grand maximum, en fait. Donc, vous imaginez bien, donc, des informaticiens, donc, les gens qui ont accès à l'informatique, donc, déjà, les gens qui peuvent se payer un ordinateur, donc, pas beaucoup de monde par rapport à des religions comme l'islam qui peuvent toucher potentiellement n'importe qui. Bon, alors là, donc, c'est très très restreint, les gens qui font de l'informatique, et encore 2-3% de ces gens-là. Et donc, Saint-Ignatius, en fait, ce n'est autre que l'inénarrable Richard Stallman, initiateur du mouvement du logiciel libre, qui en fait, dans un cadre assez second degré, s'appelle Saint-Ignatius, voilà.
Avec un U.
Voilà, Ignatius, ouais. Et donc, il est saint dans l'église des Max, et en fait,
avec
c'est assez.
I
Ignatius. Non, mais ça ne sera pas dans le dictionnaire, hein, cherche pas. Hein. Attends, on aurait dit un Big Windows, c'était marrant. Et donc, ce monsieur,
c'est
en fait,
si moche que ça.
C'est assez rigolo, en fait, il se balade avec un 33 tours sur la tête, vous voyez, ça fait comme une belle auréole, en fait, c'est un accessoire sympathique pour se faire une auréole.
Alors, un 33 tours, faut préciser pour les jeunes.
Oui, bon.
Parce que nous, on en a vu déjà il y a très longtemps, moi j'en ai vu dans des musées quand j'étais jeune, mais depuis.
Des fois, je me demande si c'est pas aussi des galettes de. Ce qui se met, c'est pas des vieilles galettes de disques durs antédéluviennes, parce que les premiers disques durs, en fait, étaient vraiment énormes, et il y a vraiment des galettes fantastiques. Donc, j'ai regardé les photos et il y en a qui disent c'est un 33 tours, mais moi, des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment une galette de disques durs d'époque antédéluvienne. Enfin, bref, il a son disque sur la tête.
Donc, tu vois ton verre, alors demain soirée, tu pourras te faire une auréole avec une galette énorme, quoi, si t'en trouves.
Ah non, moi je suis super fort, bon. Moi j'arrive à avoir deux auréoles quand j'ai une chemise.
Oui. Sur la tête, on a dit l'humain, hein. La tête. C'est ça qui fait qu'on est un saint, parce qu'avoir des. Bon, bref, bon, recadrons dans le sujet.
Oui. Donc,
bref, il a. Admettons qu'il a un 33 tours sur la tête, ça vous permet bien de vous représenter la chose, parce que. Évidemment, il y a des images plein internet, mais là, ça passe mal à la radio. Donc, vous imaginez quelqu'un avec un 33 tours sur la tête, dans une salle machine, en fait, avec la main levée.
Alors, une salle machine.
Alors, une salle machine, non, pas une machine qui est pas très propre. Hein. Une salle, une pièce, hein, avec plein de machines, en fait, des serveurs.
Plein d'ordinateurs, en fait, on peut dire, pour résumer.
Voilà, pas des serveurs avec un nœud papillon, évidemment. Donc, voilà, et en fait, il a la main levée et il dit, I bless your computer, je bénis ton ordinateur, etc. Et donc, voilà, exactement. Donc, il bénit les ordinateurs, etc. Donc ça, en fait, il fait ça au second degré. Maintenant, s'il a eu l'idée de faire ça au second degré, c'est qu'en fait, ce personnage-là est assez régulièrement, en fait, taxé d'être vraiment le gourou du mouvement du logiciel libre, etc. Et donc, on emploie des termes qui sont très, très... qui pourraient justement penser à un mouvement vaguement sectaire ou religieux. Et en fait, concrètement, en fait, il a... effectivement des positions qui sont assez extrémistes. Alors il se défend en disant qu'il est un roi de la négociation et qu'il passe sa vie à négocier, ce qui n'est pas étonnant vu que sa position est assez extrême, il est un petit peu obligé de tout le temps faire des concessions. Mais par exemple, donc le logiciel libre, donc quelque chose utilisé par pas beaucoup de gens, lui il considère en fait que ce qui est vraiment important pour l'avancée du logiciel libre, c'est les gens qui n'utilisent que des logiciels libres et rien que des logiciels libres et pas du tout quoi que ce soit d'autre. Ce qui est quand même assez, assez extrême comme position en fait. Mais d'un certain point de vue, en fait, moi je me rends compte que quelque part il a quand même un petit peu raison. Parce qu'en fait, la moindre concession qu'on fait au logiciel libre, quelque part, ça revient à s'aliéner et à se dire que y a certaines libertés qu'on perd, et quelque part on fait une concession inadmissible. Et justement, moi je me pose la question, parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'à peu près sain d'esprit, en fait, et libre de penser, et je me dis que ce type-là a raison, et en fait c'est quelqu'un qui est relativement taxé d'extrémiste, qui a des positions qui sont. Assez poussés en fait, et je me demande en fait est-ce que c'est normal parce que le problème c'est qu'en fait il a une position de dire c'est ce qu'il prône en fait c'est de la liberté. Donc vous imaginez quelqu'un qui vous dit il faut être libre etc. et qui vous impose de ne rien faire d'autre de ce qu'il vous a dit, alors que faire? Fondamentalement, on ne se fait pas beaucoup chier, en fait. Hein. On n'utilise que des logiciels libres. Et puis voilà.
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 Donc il a raison. Moi, voilà. je trouve qu'il a relativement raison.
Non, mais développe, hein.
Non, non.
Si, si,
non,
t'as encore le temps, tu développes.
Non, non.
Tu te démerdes. Non, non, tu nous fais un poème si tu
non,
veux.
Non. Parce qu'en fait, objectif. Non.
Développe.
Non. Ah non, je développerai pas.
Si tu développes pas, je reparle de mon film.
Ah bah, reparle.
Non, développe pas. Ou développe, enfin, fais quelque chose. On arrête.
Ah non. Mais non, mais en fait, le truc qui est fondamental. En fait, c'est. Ce à quoi on arrive en général quand on parle de logiciel libre, c'est cette petite contradiction en général, mais qui en général fait réagir les gens, qui est oui, mais tu me parles de quelque chose de libre, où en général ce qu'on met en avant c'est la liberté qu'ont les gens. Alors je vous l'avais déjà dit dans le cadre d'une émission précédente, mais je peux éventuellement radoter si vous voulez, c'est la liberté d'utiliser le logiciel, de le filer à ses potes, de comprendre comment il marche, de le modifier et de redistribuer tout ce qu'on a pu améliorer. Bon. Tout ça, ça paraît très gentil. Mais en même temps, quand on vous dit qu'il faut faire ça, mais qu'il ne faut pas utiliser d'autres formes de logiciels, quelque part, on est un petit peu dans une impasse. Parce que, en fait, concrètement, ça veut dire...
On n'est plus libre.
Bah oui, voilà, tout à fait. Et toute la contradiction est là. Maintenant, Et en fait, vous avez quelqu'un qui vous impose la liberté. Et donc, vous êtes là, ouais, mais alors, en fait, le gars, il vous dit, il faut être libre. Oui, d'accord, mais d'un côté...
À partir du moment où c'est
le problème qui est posé, c'est où se trouve la limite entre la liberté et la propriété.
Ben non, pas forcément. Le problème, c'est quelqu'un qui t'impose d'être libre.
Le problème,
c'est
voilà, c'est exactement, si on parle en... tu regardes Irak, ben il y a les Américains, ils arrivent, puis ils disent, tiens, maintenant, vous êtes libre.
On fait pas le bonheur des gens contre leur volonté.
Ben, la plupart du temps, non.
Oui, mais d'un autre côté, tu te trouveras des gens qui sont dans des positions, des fois, qui sont esclaves ou n'importe quoi, qui vont me dire qu'ils sont contents de leur position, qu'ils n'ont pas envie d'évoluer. Et en général, c'est l'argument de massue qui est avancé par tout le monde pour justifier ce genre de situation. Et c'est l'argument de massue qui est avancé par tous les gens qui font du logiciel propriétaire, c'est de leur dire, mais les gens sont très contents, les gens achètent.
Il a dit ça, le général?
Bah oui, il a dit plein de choses en général. Les gens vont dire, en fait, les gens achètent des logiciels, ils sont très contents de les acheter parce que finalement, ces logiciels résolvent leurs problèmes, et puis ça marche, et puis ils sont très contents comme ça. Et donc ils fonctionnent. Mais c'est exactement la même logique.
Bah, d'un autre côté, c'est vrai.
Quand tu te poses pas toutes les questions que toi
tu te poses, par exemple, t'as besoin de quelque chose, tu trouves, bah tiens, dans le commerce, là, je vois, ça existe, ou alors, bah tiens, je sais que ça existe, je vais le choper, je le récupère en douce sur Imul, je le craque et tout le tralala, parce que c'est quand même la principale utilisation des logiciels, ils sont piratés, quand même, et principalement.
Non, pas forcément. Non.
C'est quand même principalement comme ça qu'ils sont utilisés. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont acheté tous les logiciels qu'ils utilisent.
Bah, ça, c'est une vision qui est une vision de particulier, en fait. Les entreprises en achètent énormément.
Les entreprises, oui. Bah, les entreprises ne font pas forcément
le choix.
Et je précise bien, pas forcément.
Donc, en fait, son idée à lui, en fait, c'est de dire, parce que quelque part, en fait, on a priori pas un profil de voleur de pommes. Et normalement, on n'a pas vocation à voler les choses. Même si c'est facile, le chou crabe une pomme, en fait, en passant sur le trottoir, n'importe quel épicier, tu peux lui piquer une pomme, il s'en aperçoit pas. En fait, on fait pas. Mais on le fait avec les logiciels.
Non, mais là, c'est pas piquer une pomme sur l'étal d'un épicier, c'est piquer une pomme qu'il y a sur le bord du chemin.
Oui.
Où on n'a pas l'impression que ça appartient à quelqu'un.
Oui.
Non, on n'a pas l'impression que ça appartient à quelqu'un, ces trucs-là.
Non,
et est-ce que ça doit appartenir à quelqu'un ou pas? Après, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais...
Toute la question, en fait, lui se pose pas. Enfin, il répond à ces questions, il y réfléchit éventuellement. Mais son point de vue, en fait, c'est de dire surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher certaines libertés qui sont fondamentales, etc. Et donc, en fait, il en déduit toute une conduite de vie et qui, quelque part, au bout d'un moment, devient hyper compliqué, quoi. Grosso modo. Ah, allez, je te l'avais
dit. Il en rêvait, il l'a eu. Son panneau des 2 minutes.
Je te l'avais dit. Non, mais.
Je voudrais expliquer aux auditeurs que Darty pensait faire une chronique d'une minute et demie et qu'il a réussi à arriver à ses 8 minutes. Voilà, et donc à avoir un deadline.
Ce qui est quand même impressionnant, venant de ma part, a priori, moi je me fais en général une marque d'honneur d'arriver. Le spécialiste de l'endurance et de la longue distance en toutes les disciplines, et là en fait, bon, bref, hein.
Dans toutes.
toutes, ouais, hein.
Donc bon, bah, Darty, pour conclure,
c'est
alors.
Qui doit être contente.
Non, mais en fait, je voulais attirer votre attention sur le fait que cette petite contradiction en général, qui est pas une petite contradiction, mais qui en général fait tiquer tout le monde quand je leur parle de logiciel libre, c'est justement le fait que imposer ce modèle de liberté quelque part, c'est entrer en contradiction avec lui. C'est un petit peu la clé du problème en fait, c'est que soit on, enfin, faut réfléchir à ce que c'est que de se priver d'une liberté en fait, et au concept, que peut être en fait de s'imposer de ne pas restreindre son champ d'action et son champ de possibilités en fait. Voilà.
Okay. C'est tout. Est-ce que c'est l'économie qui est à notre au service du citoyen, ou est-ce que le citoyen est au service de l'économie, peut-être en fait, un petit peu pour aller
Oui, mais ça c'est l'argument qui est régulièrement servi, mais il a pas grand chose à voir cet argument.
Bah quoi, regardez pas bêtement comme ça, c'est quand même vachement important comme question.
Oui, bon, l'argument toujours c'est logiciel libre, etc. Est-ce que ça risque pas de mettre en péril l'industrie logicielle? Mais ça c'est quelque chose qui a trait au logiciel libre en général. Mais moi, je voulais juste vous parler de l'aspect religion et de l'aspect vraiment philosophique et un peu complètement intégriste du logiciel libre, et qui est cet aspect idéologique, justement cet aspect
théologique, où
les gens vont à t'imposer une vision du logiciel qui est complètement découplée de tout ce qui peut être matériel, etc., de tout ce qui peut être qualité du logiciel. Ils en ont rien à foutre, mais rien, strictement.
Putain, on dirait des communistes.
Voilà, non mais oui.
Donc on a un petit peu finalement deux extrêmes, un petit peu dogmatiques, qui nous disent d'un côté c'est l'économie qui doit tout décider, puis de l'autre côté c'est la liberté qui doit tout décider. Entre les deux, on a rien.
Ben voilà.
À part l'open source,
peut-être. Un truc qui se dit régulièrement de Richard Stallman en fait, c'est que on demande est-ce que sa position est trop extrême ou pas. Et il y a des gens qui disent et ils ont pas complètement tort en fait, que ce type-là c'est l'étoile du Nord en fait. Que quand tu te poses une question, quand tu sais pas trop, tu dis mais alors où est-ce que j'en suis par rapport aux notions de logiciel libre, etc. Tu regardes ce qu'il raconte, et puis en général, lui il te montre la bonne direction, et tu es à peu près sûr que lui il en déviera pas d'un micromètre. Il saura s'adapter aux nouvelles contraintes, puisque le monde évolue, spécialement en informatique évidemment, mais il saura s'adapter à tout ça, et en fait par contre il te montrera la bonne direction. Encore une fois, le mec qui est l'étoile du Nord, etc., les gens qui se réfèrent à ça comme,
enfin, ouais,
tu vois,
un mec qui est l'étoile du Nord,
il y a un petit peu un aspect gourou, tu vois,
ouais,
un peu malsain.
Est-ce que
quand même.
Filles, ouais.
Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir quelque chose au niveau informatique, genre religieux, basé sur l'informatique, qui une religion informatique? Alors, quelque part, est-ce que ça pourrait exister?
Attends,
à ton avis,
en tout cas ce qui est sûr, c'est
qu'ils sont toujours appuyés sur des événements de société à chaque fois.
Non,
chaque religion, c'est pas parti par hasard comme ça, juste pour le plaisir de...
Moi je pense que non, clairement, parce que bon, en fait, si ça avait dû marcher son truc, ça aurait impacté tout ce qui était artiste et autres, en fait, parce que la création artistique et la création informatique sont pas hyper éloignées. Je vais laisser la parole à quelqu'un.
Oui, je voulais dire que quand même il y a un signe pour ce qui est de la religion basée sur les ordinateurs, c'est qu'il y a déjà un petit descendant de Moïse qui a réussi à traverser une carte mère.
Bien vu. Et donc non, mais il y a a priori aucun risque. Je pense pas. En tout cas, ça sera pas ça qui.
Disons pas de notre vivant.
Objectivement, il a le bon goût en fait de jouer à 5 Ignatius avec son 33 tours. Et en fait, c'est très très approprié qu'il fasse ça au second degré. Parce que quelque part, moi, ça me donne beaucoup confiance en fait, qui joue au dieu avec un, enfin au saint au moins, au minimum, avec un 33 tours sur la tête, parce que je me dis que ce type-là a quand même conscience des limites de ce qu'il peut raconter et qui sait que
ça peut lui échapper.
Non, justement, il y a une chose qu'il ne fait pas et que beaucoup de personnes font, c'est qu'il dérape pas en dehors de son domaine.
Non, mais
en fait.
Il dérape pas lui, mais qui dit du second degré, il y a peut-être des gens qui peuvent le prendre au premier degré et partir dans ça serait pas la première fois, il y aurait rien de nouveau.
Lui il est très clair, il te dit
non
que...
mais lui d'accord, mais
son
message, est-ce que lui il peut pas lui échapper complètement et que ça parte dans des délires absolument
Je pense qu'il est relativement le plus azimuté de toute la tribu, donc a priori des plus dangereux que lui il y en a pas beaucoup, donc,
alors tout va bien.
Non ça devrait aller. Voilà. Mais je voulais vous parler de Saint Ignatius parce que c'est un personnage honnêtement assez remarquable. Regardez-le.
Écoute, merci beaucoup.
Moi, je l'ai rencontré, il est assez sympa.
Eh ben, un tonnerre d'applaudissements pour Darty et d'applaudissements, hein, comme je viens de dire. Donc ben voilà, ben, cette émission est finie, elle a duré très longtemps. La prochaine fois, on fera un sujet un petit peu plus léger.
Dans le micro.
Un petit peu plus léger, ça sera sur la bouffe.
Okay. C'est pas d'accord. Forcément léger non plus.
Mon sujet ne sera pas le film La Grande Bouffe. Je vous annonce tout de suite.
Philosophiquement, théologiquement, la bouffe, c'est plus léger que la religion. C'est plus digeste.
C'est vrai, mais si tu vois le film La Grande Bouffe, c'est pas très digeste. Ouais,
je vais encore parler des pizzas de foie de brûlée.
Tu vas nous parler de La Grande Bouffe ?
Non, je ne vais pas vous parler. Je vais essayer de trouver autre chose que vous parler de La Grande Bouffe.
D'accord. Donc,
il est bien quand même.
Ah, il est très bien comme film. Il est très très bien, oui. Donc, si c'est un film que tout le monde a vu, ça serait peut-être intéressant finalement.
Ça fait longtemps.
Je voudrais aussi toujours continuer par, comme à chaque fois, remercier monsieur Yann Beaujouan qui a composé et interprété tous les jingles génériques de l'émission. Hein. Et on l'a, un tonnerre d'applaudissements pour lui aussi. Il y a d'ailleurs un petit lien sur notre site, sur son site à lui. Donc un lien, c'est comme ça, on appelle ça comme ça, hein, Darty, toi qui es un spécialiste.
Petit... Oui.
Mais nous, c'est pas facile à trouver en fait.
Nous on a été balèze parce qu'on a bien dû mettre 6 mois avant de mettre en place quand même le lien.
Oui, mais on est fort.
Minimum.
On aurait pu mettre 9, mais ça aurait pu être mal interprété.
Le temps de tirer le câble entre notre serveur et puis le sien, quoi.
Les serveurs, vous savez, pas les trucs avec les nœuds de papillon, hein, les machines que iBlast sur computer, quoi.
D'accord, on a tout bien compris. Donc rendez-vous dans à peu près un mois, parce que maintenant on va faire des émissions à peu près une fois par mois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Le 18?
Oui, oui. Ah, hein.
Alors si, quand même, on va demander un petit commentaire du public.
D'Adèle, par exemple.
Adèle, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, voilà. merci Adèle.
On sent l'appréciation tout de suite.
Ariane, qu'est-ce que t'en as pensé?
Mais je reviendrai avec grand plaisir. C'est pas la première fois de toute façon que j'assiste à une émission. Donc non, c'est pas la première fois, non. Et je reviendrai avec grand plaisir, voilà.
Ah, bravo. Donc elle reviendra bravo. Avec grand plaisir. Bravo. Donc et ben à dans un
avec
mois.
Et merci pour le fromage.
Merci beaucoup. À bientôt. Bon mois. À bientôt.
Au revoir. Bon toi.